Ben oui, c'est nous autres, ça. 100% parler tout l'été. À Boulevard 101, Jeff Fortin avec Pascal CV pour l'émission On en jase, ton émission d'actualité du midi. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de la Ville de Québec, ses derniers conseils municipaux hier. Puis le maire marchant dans le soleil aujourd'hui dit « Je sens un élan de fierté dans la ville. » Oh! Ah ben, coudonc! Sentez-vous cet élan de fierté-là? 418-971-1021. Également à l'émission, Étienne-Alexandre Beauregard, chercheur pour l'Institut Cardus, ancien rédacteur des discours de François Legault, va venir nous présenter une étude très intéressante sur comment faire plus de place en garderie pour les parents, avec le fait que ça va coûter moins cher à l'État et que les parents vont être bien servis. Bien hâte de l'entendre, ça va être aux alentours de midi 15. Et midi 45, Pascal CV, tu nous as plugué nul autre qu'Arnaud Cordier.
Ben oui, c'est rendu une habitude de le recevoir à l'aube du Festival d'été de Québec, parce que c'est aussi ça cette semaine. Hein. C'est le début de grosses semaines éprouvantes, éreintantes, mais purement dans le bonheur. Hey,
mais hein, j'assure d'être aux Lumineers vendredi. Quel bon groupe de musique, de la belle musique... envoûtante, un petit peu plus douce. Ça va filer très début de vacances avec les Lumineers. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Ça, c'est un gros band sur la grosse scène, ouais, sur les plaines d'Abraham. Mais ce qui est le fun avec Arnaud Cordier, qui est à la programmation du FEC, c'est qu'il va aussi nous donner les petites perles. Il fait ça chaque année.
Oui.
À ne pas manquer puis à découvrir. Tu sais, un genre d'angine de poitrine avant que ça explose. Ben, il en passe au Festival d'été de Québec.
Exactement.
Puis lui, il les connaît.
Ah, j'ai bien, bien hâte de parler avec lui. Ça va être aux alentours de 12h45. Puis aux alentours d'une heure, 1h15, on va parler avec Jean Carrier, journaliste pour le journal Le Soleil. Il a sorti une nouvelle qui m'a shaké complètement. Puis Jean, c'est un journaliste sportif. Fait que d'habitude, quand Jean écrit, moi, je lis ça. Puis Jean, ils ont bien cool. Il vient de parler de mes chums, des Titans de Limoilou, puis ainsi de suite. Parce qu'il couvre très, 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 très bien le sport régional. Mais là, c'est un entraîneur de basketball qu'une école a congédié parce que, pas nécessairement en fait de gestes sexuels, mais il y avait les mains longues, ces petits gars. T'sais, un petit flattage de ventre, ouais, une petite main à l'intérieur de l'élastique des pantalons. Mais malgré ça, la DPJ a dit « Ben oui, tu vas être famille d'accueil, toi. » Un autre raté de la part de la DPJ. Faut en parler, puis faut vraiment se questionner plus sérieusement sur le travail. En général, la DPJ, je le sais, il y a des excellents éducateurs, il y a des excellentes personnes à la DPJ, j'en connais plusieurs, je les salue. Mais là, il commence à avoir beaucoup de pommes pourrites à la DPJ, puis il va falloir régler le tout, il n'y a pas de doute là-dessus. 418-971-101, je vous l'ai dit, c'est pour communiquer avec nous. BLVD 102.1, c'est notre application, meilleure façon de nous écouter cet été partout où vous allez. C'est disponible gratuitement sur App Store et Google Play Store. À la météo, c'est 30 degrés avec 30% de possibilité d'averse pour aujourd'hui. Risque d'un orage tard cet après-midi, l'humidex est à 35 degrés. Demain, jeudi, c'est 27 degrés avec 40% de possibilité d'averse. Pour vendredi, samedi, dimanche, full soleil, 25, 27 et 28 degrés. Pascal CV, tu sens-tu dans un élan de fierté, toi, quand résidente de Québec? T'es-tu dans une fierté? Ma ville, je suis donc bien fier.
Ouais. Non, j'ai l'impression qu'on a plus de défis. Puis au contraire, je me questionne un petit peu plus sur l'action dans ces défis-là.
Ben, c'est ça.
Puis les discussions aussi entre les différentes personnes concernées.
Écoute, on est complètement à la même place. Vous, chers auditeurs, 418-971-1021, vous sentez-vous dans un élan de fierté avec la Ville de Québec? Oui ou non? Si vous voulez en ajouter dans votre commentaire, oui, pourquoi, non, pourquoi, ça va nous faire plaisir de vous lire en ondes. Parce que c'est ce que le maire Marchand a dit. Il était dans plusieurs entrevues éditoriales avec le Journal de Québec, avec Le Soleil. Et le gros titre, c'est « Marchand surfe sur une vague de fierté ».
Je me demandais si c'était un contrôle du message actuellement. T'sais, des fois, ouais, plus tu répètes quelque chose, plus les gens y adhèrent et y croient.
C'est un très bon point.
Ou encore, on est complètement déconnecté de ce qui se passe quand les portes sont fermées.
C'est ça.
On a-tu une mauvaise vision en ce moment et on ne devrait pas?
Ouais.
Comment est-ce qu'on
voit
les choses?
Comment il explique qu'on surfe sur une vague de fierté? Moi, là, vague de fierté, je suis un petit gars de Saint-Sauveur. Fait que je regarde toujours en premier lieu mon quartier de naissance. Là, je me dis, OK, la rue Saint-Vallier-Ouest, ça a pris 3 ans, vierge, à faire une rue. Puis là, les commerces que je fréquente le plus sur cette rue-là sont dans le tronçon qui est encore fermé parce qu'on attend près des luminaires. Je peux pas être fier d'une ville qui ferme une rue pendant 3 ans pour ses commerçants.
Ça, c'est un exemple. Là, je me demandais, est-ce qu'on est fier parce que, mon Dieu, la ville en ce moment, elle a ses défis, mais on l'aime tellement qu'on va tout faire pour rétablir cette fierté-là. C'est-tu genre, on est fier d'elle, donc on va s'en occuper, ou on est vraiment fier d'actuellement comment ça se passe dans la ville?
Ben, c'est ça!
Ce serait épouvantable pour un maire, tu sais, puis mettons qu'on y va dans la nuance, là, de dire... Moi, la ville de Québec, là, je la trouve en décrépitude. Ouais, on a tout échappé. T'sais, premièrement, ce serait de l'extrême. Mais deuxièmement, ce serait très difficile après de se lier à lui, puis se liguer en arrière, puis de vouloir avancer, puis on serait tous découragés. Par contre, il ne faut pas tomber dans les faux discours. Peut-être qu'il y croit. Peut-être que pour lui, il est d'une grande fierté de ce qui a été accompli pour l'instant, puis qu'est-ce qu'il est en sentier.
Mais s'il croit, ça veut dire qu'il est déconnecté sur le réel?
Ben, il manque certainement peut-être un petit peu plus de pieds dans sa ville. Ça veut dire d'avoir vraiment les deux pieds en train de parler.
Parce que là,
aux gens.
Moi, je suis dans Saint-Sauveur. Puis là, je vais aller dans mon quartier préféré aussi, qui l'était, Saint-Roch. Et là, je rentre dans Saint-Roch. Là, je fais OK. Manque donc bien des commerces. J'ai regardé, c'est 74 locaux qui sont vacants à l'heure actuelle dans Saint-Roch. Là, je regarde, j'ai collé une itinérance, ça a pris de la place. Hein? Ouais, c'est plus sale que c'était. Hop, je vais au parc Jean-Paul Lallier. Hein, crime, il est en décrépitude, ce parc-là. Je vais au parc Saint-Roch. Et ça fait dur, hein? Fait que je peux pas être fier de ça.
Il y a plein d'autres beaux quartiers, mais il y a des défis monumentaux. Puis ça, t'as raison,
oui.
C'est dur en ce moment pour Saint-Roch de se dire « Hey, on voulait que ce soit revitalisé, mm-hmm. qu'il y ait une cohabitation extraordinaire, qu'on amène des gens à y habiter. » On travaille à ça, mais on peut pas dire qu'en ce moment, on est donc bien fiers puis ça fonctionne. C'est pas le cas.
Ben non.
On peut pas se mettre la tête dans le sable non plus. Puis je me demande qu'est-ce que ça amène et ce que ça apporte en ce moment d'avoir des phrases comme ça qui
ben, c'est
seront
ça.
Que... démantelé.
Exactement. Alors qu'on serait bien mieux d'avoir le discours de dire « Hey, savez-vous quoi? Bon, on a des défis devant nous. On a réalisé telle chose. » Parce que, bon, c'est vrai qu'il y a eu des réalisations qui ont été faites. Je vais prendre l'exemple. Moi, je redonne souvent le même exemple, mais au niveau de la gestion rigoureuse de la dette. Et regardons, on réussit à diminuer la dette. On est fiers de ça. Bon, le tramway, il y a des gens qui sont contre. C'est bien parfait comme ça. Mais ça pourrait être une réalisation du maire Marchand. Hey, regardez les travaux du tramway. Le tramway, là, clac! Puis là, il nous dit, regardez, tel immeuble pousse, telle affaire. Ça, je suis fier de ça. On pourrait y donner dans sa vision d'être fier de ça. Mais là, je sens un courant de fierté envers Québec en général. Je le sens pas. Puis c'est drôle parce qu'il y a une autre sœur qui vient d'écrire récemment, je suis allé à Montréal, c'est la première fois que je trouvais la métropole plus propre que Québec.
Ça, je suis très, très surprise. Là. Je sais pas que je crois pas mais, la personne qui nous écrit.
Mais pour de vrai, là, moi, quand je suis allé à Montréal avec ma blonde, c'était quoi, quelque part en mai, puis qu'on s'est promené dans le quartier des spectacles, c'est ma blonde qui aime. Ouais, on dirait que c'est la première fois, je regarde Montréal, puis je fais « Wow, c'est beau! » Puis je pense à mon centre-ville à Québec.
Ce ton-là.
Oh, c'est beau, chérie! Puis là, je regarde mon centre-ville à Québec, je fais « Ouais! » Fadure, Saint-Roch. Fait que ça m'a dérangé vraiment cet élan de fierté-là du maire Marchand. D'autant plus qu'il y a un excellent article dans Radio-Canada aussi qui nous dit qu'à l'heure actuelle, on est vraiment en retard au niveau des maisons neuves. On avait comme objectif 5000.
Ouais.
T'as la nouvelle pas loin. Oui,
c'est dans mes à date, là, nos donc. Sujets sont tous dans mon bulletin.
Dis-nous donc ça,
ben,
voir.
C'était la promesse de construction de 5000 maisons,
ben oui.
Comme tu disais, en banlieue. Et ça, on voulait faire d'ici 2029. Mm-hmm. Puis le maire Marchand va pas dans le bon sens pour se réaliser. Puis c'est ça que rapporte Radio-Canada, parce qu'il y a des chiffres qui sont compilés par la Société canadienne d'hypothèques et de logements, la SCHL. Puis c'est 228 maisons unifamiliales qui ont été construites à Québec depuis janvier. Donc, si on a un rythme comme ça, ça nous mènerait à 600 unités mises en chantier d'ici la fin de l'année. Puis en campagne électorale, Bruno Marchand promettait la construction de 5000 maisons sur 4 ans, dont 1000 dès 2026. Là, on serait à 600. Donc, Radio-Canada est allé chercher des réponses, mais le maire a dit qu'il travaille là-dessus puis qu'il ajoute que la première année, c'est un peu plus difficile à réaliser. Mm-hmm. Son objectif de 5000 d'ici 2029, c'est pas menacé pour l'instant. Mais le défi, c'est quand même un défi de taille, là, parce qu'on a les circonstances actuelles qui rendent les immeubles à logement un peu plus intéressants que les maisons pour les promoteurs.
Exactement. Puis la problématique là-dedans que je vois, moi, beaucoup, c'est l'accès à la propriété pour surtout les jeunes familles.
Oui.
Qui arrivent, bon, OK, je suis en appartement, j'ai eu un enfant, j'en veux un deuxième, puis là, je nomme un cas réel, c'est mon cas, j'en veux un deuxième, bon, on me trouve une maison, tu sais. Puis là, ben tu magasines, mais présentement, quand tu magasines un bungalow, je sais, j'en ai magasiné un l'année passée, c'est du 400, 450, mm-hmm. 500 000 dollars, mm-hmm. c'est énormément d'argent.
Avec bien des rénaux puis de l'entretien,
ben,
à,
oui, oui.
l'amour à donner. Là.
Écoute, tu sais, moi, je le cache pas, on a donné 410 000 puis on a remis 50 000 dans la maison. Fait que c'est 460 000 en partant.
Puis tu continues, là.
Pour un bungalow, là. Ah, oui, donc, tu sais, le coût de la vie, là, moi, il me frappe en pleine face, là. Il n'y a pas de doute là-dessus. Puis je suis certain que je suis pas le seul, là. Vous pouvez communiquer également au 418-971-1021. Je suis pas le seul que le coût de la vie frappe en pleine face, puis ça m'amène à prendre des décisions comme de dire, ben coudonc, pas pris ma passe pour le festival d'été cet été, parce que c'est du gravy, puis ben avant tout, moi m'assurer que les murs tiennent chez nous, puis qu'il y ait de la bouffe dans le frigidaire, là,
ouais.
Exactement. Mais tout ça pour dire que je trouve que ça m'amène pas à être fier de Québec de voir que l'accès à la propriété devient de plus en plus difficile pour les jeunes familles. On veut une ville dynamique, on veut une ville où les résidents se sentent bien, où les résidents se sentent pas égorgés. Puis là, ben, le fait que le maire Marchand soit pas capable d'atteindre cet objectif-là, moi, pour moi, je trouve que c'est un échec.
Mais c'est surtout que je me dis, c'était-tu une erreur de promettre ça au départ où on pensait qu'on y arrivait?
Mm-hmm.
Finalement, il y a des pépins sur notre route et où que dans la deuxième année, ça va être une explosion. Puis là, on va se mettre à... Mais c'est ça qui est un peu étrange à croire. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés avec des promesses. Puis peu importe le parti politique, peu importe le palier politique, qu'on ne peut pas tenir au moment où on en parle, puis qu'on le sait, tu sais.
Non, t'as raison.
Fait que là, on se retrouve-tu là-dedans? Parce que c'est pas d'hier là, qu'on a une difficulté à construire. On fait ce projet-là ou on amène ce projet-là sur la table parce qu'on a une difficulté
ben oui,
à construire.
Ben oui, clairement.
Fait que c'est, on peut pas dire que c'est une nouveauté. Est-ce qu'on est en train de l'échapper au niveau de la planification financière? Pourtant, il y en a, là, des très bons à la Ville de Québec. Puis, ce qu'on nous avait dit en entrevue dans les derniers mois, c'est qu'il y en a un excellent qu'on a laissé partir puis qu'on aurait dû garder parce que lui, il tenait les chiffres puis il connaissait un peu le rouage de la politique municipale. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est... je sais pas, mais clairement, mm-hmm. on a des enjeux en ce moment.
Non, en effet. Fait que tout ça pour dire que moi, je me sens pas dans un élan de fierté. J'ai vécu l'élan de fierté de 2008, le 400e, où Régis Labeaume avait sauvé le 400e. Paul McCartney est venu. Puis à partir de là, ça nous a donné un courant tellement positif que...
Mais ça, c'est du divertissement pour moi. Ça a
oui.
amené des retombées économiques. Je suis d'accord avec toi. Fait que je ne demanderais pas ça en ce moment à Bruno Marchand. Là. Peux-tu nous faire quelque chose à
non, 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 pas du tout.
Mais oui, la fierté est à son comble. Québec, on avait l'impression que ça a été un nouvel air qui nous attendait pour les prochaines décennies.
Exactement. Puis ça l'a amené, ce courant-là, à construire un centre Vidéotron puis à ce que Québec prenne sa place sur l'échiquier politique. Mais là, tu es juste sur l'échiquier politique. On chicane, tu vas aussi voir un débat en capitale
oui.
nationale.
Oui, oui, oui.
Puis les grosses réunions de notre premier ministre ou notre première ministre passent à Montréal. Donc, à partir de là... On en a perdu beaucoup à Québec. Alors, c'est pour ça que je suis en désaccord avec le maire Marchand qui dit « Hey, on surfe sur une vague de fierté à Québec. » On a fierté basse, si on est fier. On n'a pas la fierté qu'on avait à l'époque, c'est certain. Pascal, on va parler avec Étienne-Alexandre Beauregard d'accessibilité pour les services de garde. Mais avant tout, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Bien, je continue. En fait, je fais du pouce sur des nouvelles qui concernent Bruno Marchand. Hier, c'était le dernier conseil de ville. Il y a bien des choses qui sont sorties de ça. Entre autres, on a répondu au dossier de Radio-Canada qui porte sur la répression policière envers les personnes en situation d'itinérance. Hier, c'était quand même un gros sujet de notre show.
Mm-hmm.
Il y a pas intention de changer les directives données aux policiers, donc c'est tolérance zéro pour les campements. On a évoqué qu'on a lancé que ça fait 3, 4, 5, 6, 7 fois que tu essaies d'appliquer quelque chose, bien, tu prends les moyens nécessaires. Donc, c'est un peu la vision du maire là-dedans. Il lance que c'est pas parce qu'on est une personne itinérante qu'on a le droit de tout faire. Alors, ça, c'était sa réponse. Je vais nommer que le nouveau PDG d'Air Canada est capable de s'exprimer en français, mais si tu me permets, j'irai pas creux dans cette nouvelle-là. Je pense
j'ai essayé de trouver une vidéo de lui en français, je n'ai pas trouvé encore. Mais bon, je le crois, là, c'est une personne quand même bien qualifiée.
Puis, On a voulu faire une coupure nette avec le PDG Michael Rousseau, qui a fait d'une controverse exceptionnelle le fait qu'il n'a pas pris au sérieux d'apprendre le français. Il disait bonjour puis merci. le gouvernement Fréchette et Hydro-Québec sont sur le point de s'entendre sur un accord qui se chiffre en milliards de dollars. Et là, vous allez peut-être dire, ah, c'est loin de nous, c'est au Québec, OK? C'est avec la communauté Innu de Pessamite. Et là, on rapporte dans la presse que l'entente viendrait de régler des litiges historiques, en plus d'ouvrir la voie de nouveaux projets, dont une nouvelle centrale hydroélectrique sur la Côte-Nord. C'est énorme. C'est une énorme annonce.
On va en parler avec Lanny Dufour, notre chroniqueuse économique, là, vers la fin du show.
Et c'est la nouvelle à ne pas passer à côté aujourd'hui.
Vraiment.
Même si vous vous dites, ouais, non, ça ne me concerne pas, moi, non, 30 degrés. Non, non. C'est des retombées économiques. C'est Hydro-Québec qui pourrait verser des compensations qui totalisent 992 millions de dollars sur 50 ans. C'est Québec qui s'engage à verser près de 632 millions de dollars sur 10 ans pour les litiges en cours qui concernent les développements énergétiques depuis les années 1950. Alors, ça, on peut dire que c'est un méchant gros dossier. Avec la CAQ aussi, on parle de subventions aux entreprises qui ont explosé au Québec depuis l'arrivée du parti en 2018. Donc, l'Institut économique de Montréal, qui est cité par le Journal de Québec, note qu'en 2024, seulement le gouvernement du Québec a accordé un record de plus de 8,5 milliards de dollars aux entreprises. C'est l'équivalent de 945 dollars par contribuable. C'est toujours des phrases chocs, hein, des prix chocs, mais quand même, la remplaçante de François Legault, donc Christine Fréchette, a promis de changer d'approche avec moins d'interventionnisme par l'État. C'est reparti de plus belle entre les États-Unis et l'Iran. Ça n'aura pas duré longtemps après des frappes américaines. Ben, Donald Trump a lancé ce matin que le cessez-le-feu était terminé. Alors, les États-Unis disent avoir frappé plus de 80 cibles iraniennes en réponse aux attaques de l'Iran là, contre trois navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Donc, les deux pays s'accusaient l'un et l'autre d'avoir violé le cessez-le-feu. Mais là, Trump a dit ben, il est juste terminé. Puis je termine sur cette nouvelle-là parce que tu as évoqué un peu là, la nouvelle, puis on va en reparler plus tard, mais c'est l'enquête du Soleil qui effectivement révèle qu'un entraîneur de basketball a été banni de son sport, il a été visé par des allégations de gestes à caractère sexuel sur des élèves, puis il a ensuite eu la possibilité d'héberger un enfant comme famille d'accueil de la DPJ. Ces deux adultes qui ont porté plainte contre l'homme ont dit que la DPJ a carrément ignoré les avertissements à propos d'antécédents de l'homme. On aurait maintenu le placement de l'enfant chez lui pendant une dizaine de jours après cette mise en garde-là. C'est toujours selon le Soleil. Donc, les deux plaintes ont été déposées en 2024. Puis, on signalait que, entre autres, ce qui avait été observé chez l'homme en question, c'est que des témoins ont dénoncé des rapprochements, des gestes physiques inappropriés à l'endroit du jeune, par exemple, flatter le dos, poser sa main sur sa cuisse à plusieurs reprises, se tenir vraiment proche. Une autre plainte, ben c'est un autre témoin qui décrit comment il y avait des rapprochements physiques inappropriés, discussion entre l'entraîneur et le joueur avec une très grande proximité, beaucoup trop là, pendant tout le long du match. Donc, le coach a été exclu. Mais on se pose beaucoup de questions comme, sur comment ça s'est fait qu'on retrouve un enfant de la DPJ sous sa charge pendant 21 jours, malgré plein d'avertissements.
Clairement. Jean Carrier, journaliste pour le journal Le Soleil, sera avec nous tout à l'heure. C'est lui qui a sorti cette nouvelle. Ça va être aux alentours de 13 heures. Au sport, l'Argentine, hier, a complété sa remontée. Pendant qu'on était en onde, il perdait 2-0. Il avait égalé 2-2, mais il l'a emporté 3-2. Finalement, Lionel Messi a marqué dans le match un but de toute beauté. La Suisse a battu la Colombie en tir de barrage parce que c'était 0-0 à la fin du match. Donc, ils se sont qualifiés pour les quarts de finale. Ils vont affronter l'Argentine. Le premier quart de finale commence jeudi. C'est la France contre le Maroc. Ça va être à 16h sur les ondes d'RDS. Sinon, nos capitales de Québec l'ont emporté hier dans un stade Canac rempli à pleine capacité. Victoire de 6-3 face aux Rocks de Brockton. Braden Halliman, le lanceur partant des Capitals qui a connu une excellente saison l'an passé, est encore en feu. 7 victoires contre aucun revers cette saison. Félix Auger-Aliassime, malheureusement, a plié Chine au dernier set, 7-6 face à Novak Djokovic dans un match d'anthologie à Wimbledon. Quelle performance pour notre Québécois. Et l'offensive des Jays s'est enfin mise en marche. Victoire de 9-3 hier sur les Giants de New York avec 3 coups sûrs pour l'excellent Ernie Clemens qui a été invité à titre de joueur partant au match des étoiles.
On en joue jusqu'à 14.
Déjà 30 ans, les amis. Ça fait déjà 30 ans qu'on a créé les CPE, c'est-à-dire ces services de garde en milieu éducatif. Ça a été créé à l'époque par le Parti québécois. C'est toujours le fun après un nombre d'années comme ça, exact, que ce soit 20, 25, 30, de faire un petit bilan sur Ça fonctionne-tu, cette affaire-là, ou ça fonctionne pas? Et pour en parler avec nous, on a Étienne-Alexandre Beauregard, qui est chercheur à l'Institut Cardius. Étienne-Alexandre, comment vas-tu?
Ça va très bien,
vous-même. Oui, ça va bien. Attends, j'ai pas allumé le bon micro, moi, là.
Bon, il a dit voilà. Ça va très bien, vous-même.
Yes!
Je vois ça super.
Et voilà!
Hey, salut!
Ouais.
Salut.
Étienne-Alexandre, bon, je vais te rajeunir. T'étais même pas au monde quand on a créé ça, CPE.
Mais je suis allé dans un CPE, tu sauras, Jeff.
Un enfant du CPE.
Mais j'ai fréquenté, oui, exactement. Fait que c'est toujours le fun de pouvoir en parler avec cette perspective-là de quelqu'un qui l'a connu. Mais oui, fait que c'était un peu l'étude de regarder, en fait, parce qu'on le sait, là, la campagne électorale s'en vient. Puis mettons que j'étais gageux, je mettrais un petit 2 qu'il y a quelques partis, pour ne pas dire tous, qui vont nous promettre plus de place en garderie.
Ben écoute, ça a commencé hier. On avait Chloé Fauchon, la députée la candidate pour le PQ dans Louis-Hébert, qui a dit... En capitale nationale, il y a 4000 enfants qui sont en attente d'une place. Mm-hmm. On va débloquer des places en CPE. À la grandeur de la province, c'est à peu près 30 000.
Oui, exactement, la liste d'attente de 30 000.
D'accord, faut-tu faire ça? Faut-tu élargir notre réseau de CPE, en créer encore plus pour aider la population?
Bien, c'est-à-dire qu'on peut toujours essayer, puis c'est pas mal ça qu'on fait depuis 30 ans, parce qu'il y a des places qui sont créées à peu près à chaque année.
Ben, t'as raison.
C'est pas comme si le gouvernement se tournait les pouces. Mais il y a un problème persistant qui reste, par exemple, c'est que la demande est toujours plus élevée que l'offre. Mm-hmm. Fait qu'à ce moment-là, moi, je pense que ça vaut la peine au moins de regarder la mécanique du système en ce moment, comment il fonctionne, puis comment ça nous explique aussi ces difficultés d'accès-là. Parce que quand tu regardes dans le monde, dans les différents États, il y a deux grosses méthodes pour financer un système de services de garde. Soit tu vas donner de l'argent aux institutions directement, là, à la garderie, mm-hmm. quand un enfant la fréquente puis qu'il y a une place. C'est ce qu'on fait au Québec.
C'est ce qu'on fait présentement.
Ou tu peux donner de l'argent aux parents, donner un montant XY, dire... Ensuite, trouver la garderie qui vous plaît, trouver le système, mm-hmm. le moyen de garde qui vous plaît, puis on vous laisse la liberté là-dessus.
Parfait.
Et donc, nous, en fait, les problèmes qu'on voit en ce moment, c'est pour ça que l'étude que j'ai publiée hier s'appelle « Ni universel, ni équitable ». On voit que le réseau qui prétend être universel, dans le sens maintenant, dans la loi, ça dit « bon, chaque enfant a droit à un service de garde adapté de qualité », mais est-ce que dans les faits, ce droit-là, il est exécutoire? Ben non, on parlait de la liste d'attente, puis de fait, c'est pas tout le monde qui a le service de garde qu'il désire.
Exactement.
Et sur la partie équitable, ça aussi, c'est intéressant, parce que vu que la subvention, elle est versée directement au service de garde, nous, on voit rarement qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du miroir, hein, combien mm-hmm. chacun reçoit. Mais si vous êtes parent en ce moment puis que votre enfant, il fréquente une garderie subventionnée ou un CPE, la subvention réelle qu'il reçoit, c'est entre 60 et 70 $ par jour. Ça, c'est en plus...
Par enfant?
Ouais. Ça, c'est en plus du 9,65 que vous payez. Mm-hmm. Mais évidemment, 9,65, ça ne rend pas un service de garde rentable. C'est pour ça qu'il y a une subvention en arrière. Cela dit, si vous ne voulez pas ou que vous n'avez pas de place en garderie subventionnée, que vous avez, par exemple, une place dans un milieu familial ou que vous avez une place dans une garderie non subventionnée et que vous récoltez le crédit d'impôt pour cette raison-là, la subvention, elle ressemble plus à 35 $ par jour. Mais ça, les chances sont que vous ne le savez pas.
Fait que ça veut dire que moi, mon enfant vaut 60 à 70 $ par jour dans un CPE, mais 35 à l'extérieur d'un CPE, mais c'est le même enfant?
Oui. Puis si, par exemple, c'est ta mère qui le garde chez vous 3 jours par semaine, bien, il vaut 0.
Il vaut 0. Puis là, c'est le même
enfant.
Et là, moi, t'as accroché, là, justement, t'as accroché mon cerveau sur quand t'as parlé d'équitable. Le monde le savent. Moi, je viens du milieu communautaire. Fait que quand tu parles d'équitable, moi, je me disais, attends une minute, là, ce CPE-là, puis là, je veux pas commencer à faire du Québec solidaire aujourd'hui, mais t'sais, l'enfant vaut 70$ autant pour la personne qui gagne 200 000 par année que pour la personne qui travaille au salaire minimum.
Ah, ça, c'est l'autre affaire aussi. Parce que effectivement, vu que le prix, c'est un tarif unique, ça, les libéraux, ils avaient essayé en 2014-2018.
Oui. Et Colin s'était fait clencher.
Ah, ben oui, il y avait eu tout un procès là-dessus. On se rappelle la taxe famille, etc.
Ils ont été obligés d'en revenir en arrière.
Mais c'était modulé selon le revenu, puis ça finançait une partie du réseau, quoi qu'on en dise. Mm-hmm. Puis surtout, ce qu'on regarde en ce moment, je ne sais pas si tu as vu cette partie-là de l'étude, mais quand on regarde, c'est les enfants qui sont en garderie, selon le type de garderie, c'est quoi le revenu des parents? Bien, les parents à revenus élevés sont surreprésentés en CPE, par rapport aux
ça m'a
autres.
Frappé.
Mais
ça m'a frappé
c'est pas
dans
anodin,
l'étude. Mais ben non, c'est pas anodin. Parce que ça veut dire que les CPE desservent davantage une population mieux nantie, alors que ça a été fait, puis là, tu me corriges si je me trompe, sur le principe que ça soit universel, peu importe l'argent que tu as dans tes poches.
Mais c'était vraiment pour avoir une mixité, en fait,
ben
là,
oui.
de différentes ben, strate sociale, en fait, mm-hmm. pour les enfants, là, pour les développer à leur plein potentiel aussi.
Oui, puis plus encore, en fait, les études vraiment comme académiques sur l'effet là, des garderies à vocation éducative sur les enfants, là où ils vont trouver les impacts les plus forts et les meilleurs pour préparer les enfants à l'école, c'est souvent ceux qui vont venir de milieux défavorisés. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a mm-hmm. certaines clauses préférentielles mm-hmm. pour essayer de monter la proportion qui sont là-dedans. Mais clairement, quand on regarde le portrait démographique aujourd'hui, ça correspond moyennement à ça. Puis comme tu dis, oui, il y a aussi l'enjeu d'équité au niveau financier. Mais moi, ce qui m'intéressait aussi dans cette étude-là, c'est de dire, OK, mais tous ceux qui n'ont pas de place ou qui s'arrangent avec des moyens de garde plus informels, où est-ce qu'ils trouvent leur compte là-dedans?
Mais je me questionne aussi sur le fait d'une famille moins bien nantie, là, puis qui doit payer un certain tarif pour envoyer son enfant au CPE. Il n'y a pas peut-être la décision de se dire il y a un parent qui va rester à la maison rendu là parce qu'au niveau ratio économique, c'est beaucoup plus avantageux?
Ça, c'est une question intéressante aussi parce que ça, c'est quelque fait chose que j'aime dire. C'est un peu tabou quand on va là.
Ben hein. Oui, mais moi, ça me dérange pas.
Non,
je
pense on est là pour ça. Hein.
Oui, mais je pense que tout doit être abordé.
Oui, mais t'as raison. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, on parle beaucoup de conciliation, travail-famille, etc. Moi, j'aime souvent poser la question, est-ce que les garderies subventionnées comme ça, c'est une politique pro-travail ou pro-famille? Tu sais, est-ce que ça t'encourage mm-hmm. à passer du temps en famille ou ça t'encourage à passer du temps au travail? Puis évidemment, c'est une subvention au travail. Si c'est ben oui. un montant que tu paierais pour pouvoir faire autre chose tes jours de semaine que le gouvernement va payer à ta place, de fait, c'est ça.
Mm-hmm.
Ben d'abord, c'est une politique qui incite au travail. Mais si on veut un équilibre travail-famille, est-ce qu'il n'y a que ça qui compte dans l'équation? Puis c'est pour ça qu'à la fin, je regarde le modèle de la Finlande, qui, moi, m'intéresse, parce qu'on discutait hein, des deux grandes approches. Il y a le côté, est-ce que tu finances l'établissement, est-ce que tu finances le parent? Mais eux, ils ont comme un modèle mixte.
Voici, parle-nous de ça.
Ben, comme au Québec, il y a des garderies publiques qui sont financées. Ça, c'est une chose.
Okay.
Mais si, par exemple, tu ne veux pas ou ne peux pas envoyer ton enfant en garderie, tu peux demander juste une prestation, comme une espèce de opting out du service public. Tu te dis, regarde, moi, je vais prendre de l'argent, 700 euros, je pense, fait environ 1000 piastres par mois, puis tu gardes comme tu veux, tu peux demander à grand moment, tu peux t'en occuper toi-même une couple de jours par semaine, tu arranges ça comme tu veux. Et là où c'est encore plus intéressant, je trouve, c'est qu'ils ont aussi ce qu'ils appellent l'allocation de garde flexible. C'est-à-dire, si ton enfant a une place en garderie, mais tu dis, mettons, moi, une ou deux journées par semaine, j'aimerais ça l'avoir chez nous.
Chose qui est proscrite ici parce que tu vas perdre ta place.
Exactement.
Il faut absolument que ton enfant y aille et où voilà. tu payes.
Voilà. Tandis que là, on a un système qui est bâti avec la flexibilité dedans puis qui te permet, mettons, que quand ton enfant, justement, il y a 2-3 ans avant qu'il rentre à l'école et tout, que tu aimerais ça prendre des semaines de travail un petit peu moins grosses, il y a cette possibilité-là, c'est pensé dans le système. Moi, je trouve ça pas pire.
Est-ce qu'on a l'impression d'avoir les reins financiers assez solides au Québec pour s'offrir un genre de... d'amalgame, comme tu viens de décrire, que la Finlande a décidé de mettre en place?
Bien, en fait, ça va vraiment dépendre pour le, au niveau du coût. Parce que si on regarde au montant qui est investi par enfant, tout va dépendre des transferts qui arriveraient. C'est sûr que si tu dis, là, tu as 20 % des enfants de 1 à 4 ans qui n'ont pas de place. Fait que oui, effectivement, que le gouvernement sauve de l'argent du fait que ces gens-là ne veulent pas ou n'ont carrément pas de place parce qu'ils sont sur la liste d'attente. Est-ce que c'est comme ça qu'on voudrait sauver de l'argent au Québec en n'étant pas capable de donner des services aux gens? Je suis pas sûr. Mais si, par exemple, ta place à 70 de ton 70 de CPE, tu dis, mettons, moi, une journée, deux journées par semaine, je prends le chèque, puis on dit le chèque, c'est 40 par jour. Bien là, de fait, tu sauves un peu. Fait que tu peux avoir des transferts d'une catégorie vers l'autre. Puis au moins, l'avantage, c'est qu'on arrêterait d'avoir un système qui est pas universel, parce qu'il y a plein de gens qui sont pas desservis, qui n'ont pas de place, qui en veulent
en
pas.
En effet, 30 000 personnes au Québec, on le rappelle.
Exactement. Puis on irait au moins vers quelque chose d'un peu plus équitable, dans le sens où toutes les options que tu choisis auraient un minimum de soutien.
Vraiment, il y a une maman justement qui nous écrit, Laurie, elle dit « Hey, si mon enfant a 70 $ par jour, une maman qui reste à la maison pour garder et élever ses propres enfants, elle ne reçoit pas ce montant-là. » Puis j'ai fait le calcul, 70 $ par jour, si on fait 5 jours par semaine sur 52 semaines, c'est 18 200 $. Donc, ça fait en sorte que c'est ce que un parent pourrait toucher, une famille pourrait toucher, et là, déciderait ce qu'elle fait avec ce montant-là de 18 200 $. Donc, elle pourrait dire, ben moi, j'en dépense 9 000 dans une garderie, puis j'en garde 9 000 parce que je vais travailler juste 3 jours semaine, par exemple. J'ai bien compris ce que tu expliques?
Ben exactement. C'est tout à fait ça, c'est de dire, OK, pourquoi on ne donne pas plus de choix aux parents? Mm-hmm. Parce que moi, je suis convaincu, quand on regarde les sondages, là, le gouvernement du Québec, ils en font des sondages, il y a des organismes,
ah, oui.
Québec Famille aussi, qui demandent aux parents, pour la conciliation travail-famille, c'est quoi que vous voulez? Puis la première chose qui arrive, c'est toujours « j'aimerais un horaire plus flexible, j'aimerais plus de congés pour prendre soin de mes enfants ».
Ben oui, on en parlait justement ce matin avec Alain Gosselin, spécialiste en ressources humaines, qui écrit des chroniques dans la presse. Et justement, depuis la pandémie, la première demande des employés à l'employeur, c'est de la flexibilité dans les horaires. Je suis certain que si on faisait un sondage auprès des jeunes mères, ils diraient « abolissez-moi le 5 jours de travail, m'en travailler 4, m'en rester 3 jours ». Non, mais c'est vrai, puis il y a plein d'enseignantes qui font ça. Je le sais, la mère des enfants est enseignante, qui se prennent la journée du mercredi, se prennent une tâche à 80%, prennent la journée du mercredi en congé, parce que bon, ben là, je peux faire le ménage, l'épicerie, tout le kit, parce que la fin de semaine, avec les trois enfants, les arénas, les loisirs, les ci, les ça, j'arrive pas.
Oui, ouais, exactement. Puis je pense que c'est un défi de notre époque, en tout cas, auquel on ne devrait pas être insensible. Parce que si on parle tout le temps de qualité de vie, on parle de vie de famille, etc., bien, le temps qu'on passe, le temps de qualité, bien, ça a une valeur. Puis en tout cas, j'espère que c'est le genre de réflexion qu'on va pouvoir avoir au niveau politique aussi pour dire, pas juste oui, on va toujours créer plus de places subventionnées, etc., puis au final, on voit encore une fois que l'offre rattrape jamais la demande. Est-ce qu'on peut aussi donner cette flexibilité-là dans la gestion du programme?
Vraiment. Beau témoignage de Suzy qui disait, en 2004, j'ai eu des jumeaux et comme les garderies supervisées étaient très rares, j'ai dû mettre ma carrière sur pause pour 5 ans car je n'avais pas le choix. Une garderie non subventionnée à ce moment-là était 50$ par enfant, fait que 100$ par jour. Fait que tu vois, avec la mixité que t'expliques, ben, Suzy aurait pu travailler 2, 3, 4 jours par semaine, ne pas mettre sa carrière sur pause et avoir cette flexibilité-là, justement.
Il y a des gens qui ont des opinions qui viennent un peu de l'autre côté aussi. Alors là, vous êtes en train de nous dire qu'il faudrait payer pour les enfants des autres et payer pour qu'ils restent chez eux avec leurs enfants?
Ouais, payer pour les enfants des autres, c'est tout le temps drôle. Tu sais, il y en a un qui m'a répondu ça hier sur Twitter. Je n'ai pas d'enfants, je ne paierai pas pour ceux des autres avec un emoji finger.
Okay. C'était très.
Oui, c'est ça. Non, non, pas le même niveau que notre auditeur ici. Non. Mais moi, j'avais juste le goût d'y répondre. Je n'ai pas répondu. Je me dis, je ne perds pas mon temps que ça. Mais
ça bien.
Qui va payer vos retraites? Qui va payer vos soins de santé? Qui va payer vos CHSLD, les amis? Fait que oui, j'espère. Tu sais, je veux dire, on est dans un système où tout le monde dépend de tout le monde. Parce que quand on mutualise tellement de services sociaux comme ça, on n'a pas le choix de penser à ça. Puis tu sais, ça, c'est. Vous savez, moi, je parle beaucoup de ça, les questions de famille, ça m'intéresse. Puis. On a tous un intérêt à vivre dans une société qui est jeune. Même si nous, c'est pas notre choix personnel, tu veux pas vivre dans une société où il y a plus de gens qui sont en haut de 65 ans que de gens qui cotisent. Fait qu'on a tous un intérêt à vivre dans une société comme ça, notamment aussi pour le dynamisme, qui c'est qui crée des entreprises, qui fait des innovations, ça va être quand on est plus jeune, normal.
C'est clair.
Fait, toutes sortes de choses comme ça. Fait que oui, on paye pour ceux des autres, entre guillemets, mais je veux dire, le concept de l'État-providence rendu là, c'est qu'on paye pour les autres. Fait que ça,
hey, un petit dernier mot, Étienne-Alexandre, char du service de garde, et merci, étude super intéressante qui me fait beaucoup réfléchir. Comment tu trouves la pré-campagne électorale à l'heure actuelle?
Ben écoute, pour l'instant, je pense que c'est assez calme puis imprévisible.
Ouais.
On voit une espèce de triple égalité. Puis en tout cas, moi, le truc qui me frappe le plus, c'est que les libéraux ont réussi à comme se couper les jambes puis pratiquement scraper leur campagne
eux
avant même,
même
qu'elle soit commencée. Ben oui. Puis en plus, c'est tout le temps sa même affaire. C'est tout le temps sa langue française.
Tout le temps.
À chaque fois qu'ils arrivent avec quelque chose, t'en as 2-3 dans le caucus qui commencent à grenouiller. Puis là, non, il faut pas.
L'enfer.
Là, ils ont l'air ridicules devant tout le monde. Mais moi, je pense que la pire affaire, c'est les deux candidats qui choquent. Ça,
oui.
C'est terrible. T'sais, tu vas chercher deux candidatures, t'sais, un maire, M. Verret, comme procureur de la Couronne, etc. Puis là, finalement, 2 semaines après, les deux, ouais, je ne sais pas si ça me tente. T'sais, le momentum est mauvais.
Ah,
en même temps que tu baisses dans les sondages, t'sais, c'est comme.
Le monde sort.
Il doit en arracher de ce temps-là.
Exactement. Fait que ça va être intéressant à suivre. Évidemment, on va suivre ça avec toi là, au courant de l'automne, sans problème, à l'émission On en jase. Merci pour cette chronique super pertinente. Dans les 30 ans de la formation des CPE, est-ce que c'est le temps de revoir le modèle? Qu'est-ce que vous en pensez? 418-971-1021. Moi, je suis convaincu que c'est le temps de revoir ce modèle-là quand il y a 30 000 personnes qui sont en attente. C'est que le modèle fonctionne pas.
Puis parlez-nous de vos histoires là, par texto. Là.
Ah non, c'est aussi simple que cela. Après la pause, on va vous parler du maire Marchand qui veut piétoniser le vieux Québec. Il a dit bah, je fais une consultation. J'ai un petit extrait, tu vas écouter Pascal CV. C'est pas une consultation, finalement, la décision est déjà prise. Et on a Arnaud Cordier, programmeur au Festival d'été de Québec, qui va venir nous parler. C'est quoi les petites perles rares qui traînent, là? Qu'est-ce que c'est, t'es? Quelle petite scène que je peux aller? Moi, il me faut filer sans être trop dans le monde parce que je suis rendu que j'aime ça être plus tranquille, paisible. Puis voir un artiste qui va me faire vraiment triper, Arnaud Cordier, débarque en studio avec nous à l'émission On en jase.
Jusqu'à 14. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1. 100% parler tout l'été.
Ouais, 100% parler tout l'été. Merci pour vos réactions 418-971-102. Hey, j'aime ça quand on a un invité qui arrive avec des idées nouvelles comme Étienne-Alexandre Beauregard
que les gens réagissent. On est à peu près 50-50 dans les réactions, Pascal, de « Hey, c'est-tu quoi? C'est une bonne idée de donner de l'argent aux parents? » Puis finalement, il y a un autre 50% qui dit « Hey, attends une minute. Wow, minute, toi! J'ai de la misère à avoir de l'argent dans mes poches, puis t'es en train de me dire que tu vas prendre mon argent dans mes poches pour leur donner une autre famille, pour que la mère reste à la maison, s'occuper de ses enfants, quand moi... Faut que les deux parents travaillent puis qu'on a brou dans le toupette 5 jours par semaine.
Mais tu vois, c'est ça qui nous affirme et confirme que c'est un enjeu de société en ce moment.
Exactement.
Qu'on a besoin d'avoir plus de discussions.
Vraiment. Alors, merci de continuer à participer comme ça. Honnêtement, moi, j'aime beaucoup qu'on donne, tant qu'à donner dans des institutions comme des CPE qui, après ça, justement, créent une disparité avec d'autres services de garde. J'aime mieux qu'on donne l'argent directement aux familles. C'est mon opinion, mais je respecte la vôtre. Puis honnêtement, vous m'amenez à réfléchir. Alors, continuez à nous écrire au 418-971-1021. OK, Pascal, t'écoutes ça parce que là, notre prochain invité, lui, il va vraiment aimer ce que je vais dire. D'accord? Aujourd'hui, c'est 30 degrés. Il y a un risque d'orage tard en après-midi. Demain, c'est un petit 40% de possibilité d'averse. C'est 27 degrés. Hey, regarde, quand je regarde soir-nuit, là, c'est juste des nuages. Fait que Limbiskit, c'est plein. Ciao, bye, on est correct. OK, vendredi 25 avec du soleil, samedi 27 avec du soleil, puis dimanche 28 avec du soleil. Ça va bien.
C'est un méchant beau début pour le Festival d'été de Québec.
Présente-nous notre invité, Pascal Cévé.
Ben, chaque année, là, c'est pas une exception, c'est Arnaud Cordier. Je le veux en studio, je veux y parler parce que c'est un des programmateurs du FEC, donc c'est lui qui va aller chercher les perles rares, les gros noms, les silices avec son équipe, souvent un an d'avance. Fait que d'après moi, il planche pour l'an prochain. Mm-hmm. Là. Mais là, il va se concentrer sur tout ce qui s'en vient dans les prochains jours au FEC. Salut Arnaud.
Salut tout le monde, ça va bien?
Ça va très bien, on est content de t'avoir. Merci de te déplacer en personne dans ce dernier blitz-là
avant
que ça démarre.
Écoute, tu sais, la veille, moi je pense qu'il faut se permettre d'aller voir ailleurs si on y est, parce qu'on est déjà sur le site évidemment. Mm-hmm. Puis d'aller vous voir, d'aller serrer les mains, faire la bise, puis voir les yeux, puis leur vous dire à quel point, un, merci de l'invitation, puis deux, oui, ça commence là et ça va commencer. Et merci d'ailleurs pour la météo. J'avais oublié de regarder ce matin.
Ben, ça me fait plaisir de t'être donné. C'est toujours un stress, la fameuse météo, quand même. Oui. Ça doit, hein, parce que, bon, un orage violent fait en sorte qu'il n'y a pas de spectacle, comme on l'avait vécu à l'époque avec les Cowboys fringants.
Et d'autres journées, en fait, tu veux, chaque année. En plus, hélas, c'est une mauvaise... C'est une mauvaise habitude que Mère Nature nous donne, c'est que chaque année, on a au moins un ou deux spectacles où on est à risque, où on est on demande aux gens de quitter les sites parce que c'est dangereux. Puis on prend jamais le risque de laisser des gens en sachant qu'il y a du tonnerre, en sachant qu'il y a des éclairs des pluies torrentielles, et de toute façon même aussi pour les artistes. Hein. Donc cette année-ci, tu vois, de savoir que pour les 4 prochains jours, le premier week-end, ça lance le bal. Tu sais, c'est le party, on y va, puis on commence très fort avec les biscuits. Ben, juste savoir ça, moi, si tu savais comment ça mène bonne humeur, puis je sais qu'on va avoir du monde, en partie grâce à ça, mais parce que les artistes, ils valent le déplacement.
Petite parenthèse, j'ai un souvenir Facebook qui est apparu, Pascal, aujourd'hui, puis c'est drôle parce que là, on parle de météo, on parle de festival d'été. Il y a 8 ans, j'étais dans l'orage au FEC des Foo Fighters.
Je me rappelle de celui de Linkin Park. On n'avait pas annulé le spectacle on a tous des souvenirs comme ça. Ah, mais okay, les Foo Fighters...
Foo Fighters, moi, c'est le meilleur show de ma vie de 4 tounes.
C'est ça, tout le monde.
Je vais m'en rappeler à vie.
Tu sais, il y a ça, puis les 20 minutes d'Imagine Dragons aussi.
Oui, j'étais là aussi. mes enfants, au moins, il y avait 8 et 10, là, quand il a fallu partir dans la foule. Parce que là, tu sais, à grandeur qu'il y avait, c'était toutes des paires de fesses dans leur face. Il y avait moins.
Avec une certaine panique.
c'est ça. Mais ici, tiens, ça part bien. Les équipes sont affairées maintenant pour terminer, en fait, que les sites soient prête en fait à recevoir le monde. Tu sais, moi ce matin, je faisais un peu d'ornement floral.
L'ornement floral?
Oui, parce que il faut aider les équipes. Fait que hier, je faisais de la peinture aussi dans l'Artist World.
C'est une machine.
Il faut pouvoir tout faire. Puis,
dans le fond, tu marches 2 pas sur les sites, puis là, on t'arrête. C'est... puis tu fais ce qu'on te demande.
C'est ça, mais c'est le fun. C'est le fun. Puis on se dit que quand c'est beau comme ça l'est actuellement, les sites, et puis avec le soleil et tout ça. Tu dis, le party peut commencer, on a 11 jours devant nous, puis ça va pas s'arrêter. Puis c'est encore une fois, je pense, le plus gros party de l'été. Je pense que ça se passe là, Ben, du 9 au 19.
Mais ça vient quasiment de vous dépasser. Là. La vente de billets,
ça
les gens
bien.
Qui viennent ici
ça
juste pour
bien.
Le fait que
ouais.
vous dépassez Montréal dans bien des festivités estivales. Puis ça, c'est moi qui le dis. Vous n'êtes pas obligé de.
Non,
de,
ben,
de,
c'est des amis. Mais... Non, c'est ça. C'est parce que nous, on est quand même pas mal des amis toutes.
Oui.
Là. Je veux dire, les festivals, on se tient.
Mais c'est que ça
on
reste
parle.
Le fait. Que...
Ça, oui, absolument, ça reste le fait. Puis je suis allé au Franco de Montréal. C'était quand même chouette. Bon, la météo, c'était autre chose. Le jazz qui vient de se terminer, apparemment, c'était mémorable. Puis j'ai eu des super retours. Il y a eu la noce le week-end dernier mm-hmm. où ça s'est super bien passé. Le share blues. C'est tous des gens avec qui on parle. Puis tu sais, c'est comme une sorte de confrérie aussi. Puis on se souhaite à chacun du bon temps, du monde, puis pas de problème.
Sauf que le Festival d'été de Québec, André, c'est le vrai début d'été. C'est peut-être parce que nous, on est attachés ici.
Ouais.
Et là, ça commence demain.
Ouais.
Énorme programmation encore une fois cette année. Avant d'en parler, puis surtout parler des petites perles, là, on adore
ouais.
ça, jaser avec toi, des groupes que tu me dis, ouais, ça, c'est mm-hmm. l'angine de poitrine dans 2-3 ans. Là. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont contacté puis que là, t'as une certaine complexité ou t'as des anecdotes en ce moment où tout roule?
Écoute, pour l'instant, tout roule. On a eu quelqu'un qui va jouer sur les plaines, qui n'est pas la tête d'affiche, mais quand même qui est bien situé, qui a reçu ses visas il y a 2 jours.
Oh,
donc, et puis c'était pour ce week-end. Donc, tu vois, c'est toujours un peu... c'est, parce qu'on leur dit, vous savez, les visas, il faut prendre l'avance. Mm-hmm. Ah ouais, OK, mais tu sais, mi-juin... Logiquement, tu n'as pas de chance de les avoir. Là, ils ont eu de la chance de les avoir. T'sais, pour l'instant, c'est vraiment des histoires de visa. Si tu n'as pas rempli tes papiers comme il faut, ben, tu vas rester dehors du pays, je parle. Mm-hmm. Donc, en gros, c'est pour l'instant, c'est les plus gros problèmes qu'on va rencontrer. Ça va être des problèmes de logistique et de papier, finalement. Mais nous, juste pour la petite histoire, dès qu'on contracte quelqu'un, donc on engage quelqu'un, on leur donne tout ce qu'il faut comme information pour qu'ils puissent faire, justement, la démarche administrative. Après ça, s'ils ne le font pas dans les temps, c'est plus notre ressort, bien évidemment. Mais on les aide jusqu'au bout, effectivement. Donc, et pour l'instant, écoute, moi, je touche plein de bois, puis ça va bien. Ça va bien jusqu'à ce que ça n'aille plus. Mais parce que, tu sais, chaque année, il y a toujours des choses.
Il va falloir que tu surfes la vague.
Ouais, mais tu sais, tu te lèves le matin, bon, qu'est-ce qu'il y a devant nous? Ça ne sert à rien de te projeter 5 jours à l'avance, tu y vas vraiment à 24 heures. Et pour l'instant, écoute, de ce que je sais, à moins qu'il y ait des choses que je ne sais pas, évidemment, c'est comme un grand village, même une grande ville à l'intérieur de la ville. Toutes les équipes sont là, les artistes sont contents d'arriver. Ça arrive demain, en fait, puis on commence très fort avec Limp Bizkit, ouais.
En effet, Limp Bizkit demain, Lumineers vendredi. Je vais être présent. J'ai très, très, très hâte à cette prestation-là. Je les ai vus au centre Vidéotron. Ça remonte pratiquement à 10 ans, si
ben,
je ne me trompe pas.
Écoute, ils sont venus la première fois au Festival d'été en 2016.
OK.
Donc, c'est le 10 ans, ils vont le fêter avec nous. Mmh. Ça s'était déjà super bien passé. Sauf que le profil du band, il a monté.
Exactement,
monté.
C'est juste en montée depuis ce temps-là.
Et puis même moi, je suis vraiment étonné. Puis effectivement, tu peux vérifier les chiffres, les datas, les retours qu'on a. Lumineers, c'est 2 fois plus gros que ce qu'ils étaient à l'époque.
Wow!
Écoute, et puis j'ai beaucoup de retours comme toi, en fait, de gens autour de moi qui me disent « Je vais être là à Lumineers ». On a beaucoup de demandes, justement, de pros, mais pas que de pros aussi sur Lumineers. Fait que je suis curieux de savoir combien de personnes il va y avoir sur les plaines.
Mm-hmm.
Mais ça commence bien parce qu'on commence dans les dents avec les biscuits. On revient tout doucement faire une petite caresse là
oui.
aux oreilles. Puis après ça, on repart danser le samedi avec Louis Fonsi.
Hey, samedi, là, j'ai parlé à des commerçants de Grande Allée, puis... Avec la température, je te le répète, Arnaud,
ouais.
27
caliente.
Degrés ensoleillés.
Oh,
les commerçants sur Grand Allée à qui j'ai parlé aujourd'hui, ils m'ont dit « Jeff, je pense que ça va être notre plus grosse soirée à vie du Festival d'été.
Hey. » T'es-tu sérieux?
Oui.
Ah oui, ça, je savais
pas. Les réservations débordent.
C'est sûr que si tu as parlé à un certain groupe qui a 3-4 restos sur la Grande Allée, ça
peut être... Là, ils disent « OK, le staff est prêt, je te sens sans faire rentrer à 4 heures, les faire rentrer à midi. »
OK.
Ah oh, oui, la... Je pense que Québec va être latino à côté.
Ben, tu vois, on parlait des évacuations de sites et des shows qui n'ont pas eu lieu. Luis Fonsi s'en est un. C'est-à-dire que Luis Fonsi, il n'a pas pu jouer. Il a fait Despacito au manège militaire parce que c'est une fesse, on va dire. On l'a rattrapé avant qu'il parte. Mais il n'a pas joué. Effectivement, c'est un peu à l'image de Foo Fighters, Imagine Dragons. On le fait revenir, puis il va le faire, son show. Cette fois-ci, mm-hmm. il va le faire pour vrai. Puis une grosse soirée latino. On sait que le latin, ben, ça marche pas mal.
Oui,
merci Bad Bunny, entre autres. Mais pour vrai, c'est encore une fois une sorte de test. Est-ce que la communauté va être là? Ça, on pense que oui. Mais il faut que ça déborde de la communauté pour que ça soit intéressant pour nous. Il ne faut pas qu'il y ait juste que des gens de la communauté qui trippent sur la musique latine. C'est de la pop. Hein. Les gens qui aiment la pop, vous venez voir ça. Puis je pense que ça va être... tu sais, kitsch dans le bon sens du terme.
Oui, oui, oui.
Glamour.
Oui. Gros fun de dance floor.
Ouais.
Juste être ensemble puis avoir un bon moment.
Exact.
T'sais.
C'est un tout inclus, mais sur les plaines.
C'est quoi la plus grosse soirée, selon vous, cette année au Festival d'été de Québec? Là, vous vous dites, les plaines pourraient fermer ce soir-là.
Je crois. Après ça, c'est pas le but. Hein. C'est toujours de pouvoir accueillir tout le monde, évidemment.
On sait, oui.
Et nous, pour l'instant, tout converge vers Martin Garrix le dernier samedi, qui est une grosse prise en électro, qui est jamais venue, qui nous a été demandé tant et plus depuis 10 ans. Donc, et là, pouvoir le lander comme ça, surtout qu'il ne fait pas 25 shows cet été, je t'avouerai que ça, c'est une grosse prise. Puis on pense que c'est là que ça va se passer encore plus.
Un samedi aussi.
Un samedi, c'est la première fois qu'on fait l'électrofec sur un samedi.
Absolument le mercredi.
Après,
habituellement
le mercredi. Le mercredi, c'est déjà blindé. Alors imagine-toi un samedi. Moi, je pense que si en plus la température... C'est un peu... De toute façon, c'est rain or shine, là, il va y avoir du monde. Mais là, il va y avoir du monde s'il fait bon. C'est clair.
Ça, c'est le deuxième samedi du Festival de Québec.
Ça, c'est du Martin Garrix. Jerry Roll. Jerry Roll, voyons. Jerry Roll. Pour finir le dimanche.
Ouais, mais en fait, ça aussi, on est curieux de voir un petit peu le retour. C'est quelqu'un qui est très, très écouté à Québec.
Mm-hmm. Très fort, oui, t'as raison.
Très fort quand même. Puis qui...
Dans la culture de la ville aussi, au niveau
dans la culture de la ville, effectivement. C'est country, mais pas que. C'est rock aussi. Son passage a quand même été marquant aussi ici au Centre Vidéotron. Moi, j'ai regardé le documentaire l'année passée, justement, sur sa mini-tournée canadienne. C'est la première fois qu'il mettait les pieds au Canada. Puis, je trouvais ça super intéressant, comme c'est une équipe soudée. Bon, c'est un gars qui est assez religieux quand même, puis il n'oublie pas de le signaler aussi. Ouais. Mais qui, en même temps, les gars, ils prennent le temps. À chaque fois qu'ils vont dans une ville, ils louent un terrain de basket, indoor.
Hein?
Avec toute l'équipe, ils vont jouer. Fait que la dernière fois, il avait loué le terrain de basket au Cégep Limoilou.
C'est donc bien hot, ça.
Puis là, je suppose qu'ils vont, sûrement louer aussi encore un terrain de basket. Et ils se font une game pour se décontracter la veille ou le matin.
Wow.
Puis ça, il va sur le plaisir. Puis moi, je respecte beaucoup cet artiste. Il a des hits. Ça aussi, on va voir ce que ça va donner. Super curieux. Puis c'est un peu plus rock avant avec Daughtry. Puis ils se connaissent. Puis,
j'adore Daughtry.
Tu sais, ça fit aussi. Et puis ben, James Barker Band, c'est un des meilleurs groupes country au Canada. Fait que je pense qu'avec ça, on a tout un profil de soirée qui s'annonce pour le moins intéressante.
Moi, mes gars de 16 et 18 ans, là, ils attendent le lundi soir. La carte blanche.
Ah, Kevin.
Soldier.
Soldier. Soldier.
Ça va être assez spectaculaire, ça. Là. Nouvel album, il va y avoir plein de monde.
C'est sérieux, là, c'est the whole deal. Il a tout mis sur le show. Il a mis son cœur, il a investi aussi dans le show. Tu sais, quand on demande à un artiste, faites-moi une carte blanche. Parfois, il y en a qui jouent la game, parfois, il y en a qui ne la jouent pas. Ou qui la jouent un peu moins fort qu'il devrait la jouer. Soldier, lui, je pense que c'est une des plus grosses cartes blanches qu'on va avoir avec Soldier. C'est Éric Lapointe, à l'époque, en avait fait toute
une. Oui, oui, oui.
Sincère à la Éric.
C'est le moins qu'on puisse dire. Puis là, Alexandra Strelitzky, c'était magnifique. C'est un autre genre aussi. Elle avait beaucoup investi. Soldier, c'est son show de la vie. C'est chez eux.
Comme si c'était son dernier.
C'est comme si c'était son dernier. Puis pour le petit côté marrant, c'est qu'il y a 3 ans, je rencontre Soldier au Simons, Place Sainte-Foy.
J'adore.
Bon, écoute, j'ai un chum qui travaille là, je vais de temps en temps, puis je le vois, puis on n'avait pas pu faire Soldier parce qu'il jouait sur la rive sud le même été, fait qu'on n'avait pas fait d'offre. Mais je voulais qu'il sache. Je dis, écoute, Kevin, excuse-moi, tu sais, puis on se connaît un petit peu. Tu sais, on t'a pas fait d'offre parce que il faut que tu joues sur la rive sud, t'as un engagement. Ouais, pas de problème, mais oublie pas que moi, j'aimerais ça faire les plans un jour. Puis parlant de ça avec Louis, puis on se fait approcher par son producteur, puis Louis, c'est le directeur de la programmation, ben ça s'est goupillé, quoi. Puis je lui ai dit à la disque, j'ai dit, tu te souviens, hein, c'est Simons qui m'a dit que, puis là, ça se passe, il fait, man.
Et c'est pas à moitié, ça, c'est le carte blanche.
Si tu savais, tu sais, il triple, tu sais. Puis moi, je suis encore une fois curieux, combien de monde va y avoir? Je sais pas.
Mais c'est surtout cette génération-là.
Ça va être rempli de jeunes adultes.
Qui s'est collé.
Et d'adultes. Ah oui, je suis convaincu.
Ça fait un bout qu'il est là, oui. Kevin. Ah. Ça fait peut-être 15 ans.
Ça va être une mixité de générations.
Vraiment.
Ça va ressembler un peu à quand j'ai vu Tactica en première partie de Flo Rida dernièrement au Centre Vidéotron.
Est-ce que ça a bien répondu?
Ça a bien répondu. Les gars vivaient le show de leur vie. Je trouve vraiment que c'est un peu un parallèle avec Soldier. Ils ont toujours voulu faire un amphithéâtre. Là, ils l'ont fait, puis t'avais tellement de générations différentes rassemblées au même endroit. Ça risque d'être ça pour la carte blanche pour de Soldia. Comme à l'habitude, tes petites perles rares où tu dis « Hey, si vous n'êtes pas fan d'être parmi 100 000 personnes, c'est exagéré, mais quand même,
mais où aller? » Il y a quelque chose que les gens ne connaissent pas, c'est sur la soirée des louanges. C'est un groupe américain qui s'appelle Oat and Freddy. Okay? C'est un nom difficile, ça a couché dehors, ça. Oat and Freddy. Je vous assure, c'est un groupe exceptionnel. L'album est génial. C'est un mélange de Chapel Roan avec quelque chose de New Wave. C'est pop, mais c'est super catchy. Ils ont des outfits sur scène qui sont comme waouh, c'est ça, c'est glamour, mais ça envoie. Mais c'est super, c'est des verres d'oreille, là, tu sais, ça rentre. L'album est tellement bon. Oat and Freddy vont jouer sur la scène Sirius juste avant les louanges. Puis, tu sais, j'en ai tellement. Les louanges, ben c'est ça, c'est le dimanche, c'est dimanche 12. Eux, ils vont jouer à 20h à Sirius, Oat and Freddy.
À ne pas manquer.
À ne pas manquer, pour vrai, c'est terrible. Mais puis l'électro, la soirée électro sur Georges V, donc c'est le deuxième stage, en fait, derrière le manège militaire. A-Lock, ce qui est un DJ brésilien, qui fait d'habitude des shows complètement sautés.
Ça, c'est.
Ça, c'est Oat and Freddy.
Oat and Freddy. Puis. Mais j'adore.
Dansant, t'as raison.
C'est ah oui, vraiment.
C'est très, très, très un peu new wave. Puis tu mets ça dans ton char. Là. Tu roules.
T'en vas en Californie.
Mets-toi une décapotable avec ça. Là,
puis, c'est fait.
Rien pour la classe ouvrière.
Non, c'est ça. Puis Elox, c'est la soirée électro. Oui. On fait un test. Le retour de quelqu'un qui avait annulé, c'est Nate Smith. C'est notre soirée country sur le deuxième stage aussi. Mm-hmm. Les gens qui ne savent pas c'est qui, c'est une grosse pointure de country. Le fait de le faire jouer sur le deuxième stage, ben, on attend du monde, c'est certain. Puis tu sais, il ne faudrait pas oublier quand même qu'on a aussi des joyaux québécois que sont Lou-Adrien Cassidy, Gab Bouchard, Les Louanges, je veux dire, Ariane Roy, ils sont tous là cette année.
Ça, là, ça risque d'être plein. Milléniaux, là, sont accrochés à ces artistes-là.
C'est une vague qu'on avait rarement vue, je pense, dans l'écosystème de la musique québécoise.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas touché à quelque chose du genre. L'époque Jean Leloup, cet engouement-là.
C'est exactement ça, tout à fait raison. Puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner, bien évidemment. Et puis, écoute, c'est un autre genre totalement, mais c'est unique. C'est Pierre Lapointe avec l'OSQ, c'est symphonique.
Ah, oh, ça va être extraordinaire.
Ça a joué deux fois pendant les Franco, évidemment, guichet fermé. C'est sur la scène de l'Auto-Québec, le deuxième stage, c'est le dimanche. On termine avec ça. Mais juste avant, ben, on va se faire un petit escalier avec Paul Piché. Puis, tu sais, ça va chanter, puis ça va bien terminer.
Le printemps, Flacouin.
Puis, c'est ça aussi, j'oublie jamais de le dire, je pense que tu le sais, c'est qu'on a aussi une programmation pour enfants. Une programmation jeunesse les samedis, dimanches, les deux samedis et les deux dimanches à 11h en face de l'Assemblée nationale. C'est une scène gratuite et c'est gratuit. Donc venez avec les enfants, il y a plein d'animations pour eux aussi. Fait que tu sais, c'est nos futurs festivaliers.
Absolument.
Ben, oui.
Il ne faudrait pas les oublier. Hein, parce
faut en prendre soin.
C'est gratuit, je remets une surligneur là-dessus.
Et voilà, puis à retenir, les amis, vous n'avez pas votre passe, vous n'avez pas su vous en procurer ou vous ne connaissez personne qui peut vous filer ça. Il y a 66 spectacles gratuits plus le spectacle jeunesse.
Oui, puis je vois à la place, la scène Hydro-Québec, place de l'Assemblée nationale, là, nos auditeurs vont aimer ça. Samedi soir à 21h, c'est Jérôme 50.
C'est Jérôme 50, puis juste avant, un groupe que si vous ne connaissez pas.
Ouais, t'es en train de me dire que je peux aller voir Jérôme 50 gratuit.
Oui, et juste avant ça, il faut que tu sois là.
Parce c'est la patente.
La patente. Puis la patente, j'ai vu ça, elle avait passé chez eux, dans les Maritimes. Ouf! Ça, c'est du party.
Ben, t'es-tu relevé le lendemain?
Je commence à avoir un peu d'expérience.
J'annonce immédiatement à ma blonde, cherche pas ce qu'on fait samedi soir, chérie. La patente Jérôme 50, c'est fait. On va être au Lumineers vendredi, puis on va être là samedi.
Les gens sont textés, ça écrit News aussi. Ça écrit, les
News, excusez-moi, j'ai carrément oublié Muse. Dernier album, incroyable. Une véritable machine de guerre, ça se dit pas. T'sais, on n'est pas dans la guerre, mais c'est
machine
ça.
Machine de guerre musicale.
Exactement. Puis, tu sais, premier passage avec le nouvel album au Canada. Faut être là. Puis, il y a des super groupes juste avant, dont un groupe français qui s'appelle Last Train, qui font les Zénith de Paris bientôt. C'est des bons potes en plus. Ils te donnent un show, ils montent sur le public, dans la foule. C'est du rock, c'est génial. Last Train, c'est en ouverture de soirée de News.
Écrivez-nous quel show vous attendez le plus au Festival d'été au 418-971-1021. Arnaud Cordier, ne reste plus qu'à te souhaiter un excellent festival.
Ah, ça part bien,
merci.
Ça part bien.
Merci pour tout.
Merci à vous les amis, encore plus bon festival.
Merci
pour le travail que vous faites. Puis je te le répète, Arnaud, vendredi 25 degrés soleil, samedi 27 degrés soleil,
amenez-en.
Dimanche 28 degrés soleil. C'est bon ça?
Et on n'oublie pas une chose, il faut s'hydrater.
Oui, il faut s'hydrater. Oui.
Pour voir le show.
Oui, puis pas trop de consommation de substances, s'il vous plaît. On veut pas que les Lamblans Saint-Jean de ce monde passent à travers tout le monde. Courte pause à Boulevard 102. On revient avec les manchettes et Jean Carrier du Journal Le Soleil. Histoire invraisemblable. Entraîneur de basketball qui avait des mains glissantes, qui est devenue famille d'accueil par la DPJ.
Jusqu'à 14h.
Toujours plaisant de parler de ce festival d'été. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101. C'est l'émission d'En Jase, votre émission d'actualité. Sur l'heure du lunch, le retour va suivre avec Audrey Pinchot, Véro Bergeron et Antonine Iaccarini. On est dans un été 100% parlé. On fait un petit call brass la semaine prochaine parce qu'il y a des vacances qui commencent. Alors, ce sera aussi simple que le matin. Yannick Marceau à la barre de l'émission avec Pascal CV et Alex Laramé que vous entendez.
Il est déjà en train
régulièrement dans l'émission d'Angers. Déjà qui Marceau,
ça? Oui, il est parti.
Bon, je sais, c'est ben trop ennuyé de toi.
Non, mais sérieux, hier, il voulait ressortir une vieille photo, un montage pour c'est dire ça. Encore c'était vrai. Là,
ben c'est
la maillot de bain.
On
là.
Travaille ensemble vendredi, moi, toi, Yannick. J'ai déjà averti Yannick, gardez vos chicanes pour lundi prochain. OK?
C'est très bon.
C'est une émission tranquille, mais vendredi moi, matin dans mes vacances.
J'aime beaucoup exercer le déni volontaire.
Oui, c'est ça.
C'est comment? J'ai pas
entendu. J'ai déjà avisé.
Je sais pas ce que tu veux dire.
Yes. Alors, ça sera pour la semaine prochaine. On en jase, va être d'11h à 2h. C'est un mix, on en jase et le point de max avec Pascal CV et Mathias Turcotte. Et la semaine prochaine, le retour sera animé toujours par Audrey Pinchot avec Antonine Iaccarini. Et Max Larouche va se joindre à l'équipe du retour. Parlant de Max Larouche, il va faire une émission spéciale en direct de la Grande Allée Terrasse des Trois Brasseurs.
Il est tellement bon là-dedans.
Jeudi, 18h, émission spéciale pour le show de Limp Bizkit, qui va être retransmis également immédiatement après le show à 23h30. Fait que dans votre voiture, dans le transport en commun, vous allez pouvoir réentendre cette émission spéciale si jamais, puis il y a des grosses chances qu'à 18h, les amateurs de Limp Bizkit, jeudi, soit déjà sur une terrasse avec une pinte en train de fêter.
Vous méritez Max Larouche en émission spéciale comme
ben
ça.
Ben oui!
Puis Max le mérite aussi.
Exactement.
Fait que ça va être du feu, c'est sûr.
Alors, Boulevard 101, évidemment, ça s'écoute avec notre application BLVD 102.1 partout. Vous la téléchargez, App Store, Google Play Store. C'est gratuit, ça s'écoute via la web radio blvd.fm et votre haut-parleur intelligent. Vous dites, écoutez, BLVD 102.1. Pascal, beaucoup de choses ont brassé hier en ce dernier conseil de ville avant les vacances. Est-ce que tu peux nous faire un résumé?
On a essayé, en fait, de régler des dossiers, du moins de les fermer en attente de les rouvrir après la saison estivale. C'est sûr que là, le maire a été questionné sur plein de choses. Le projet de troisième lien Québec-Lévis, notamment, c'est revenu dans le débat. Pour Bruno Marchand, ben, on ne construit pas un pont sur un ressenti. Ça vous donne un peu le ton. Alors, on peut décider de construire sur des arguments économiques de mobilité, mais selon lui, il n'y a pas de science. Puis, il n'y a pas de grand pont, pas de grand tunnel qui tient la route. Mm-hmm. Ça vous dit un peu ce qu'il en pense. On a aussi parlé de sa promesse de construction de 5000 maisons en banlieue d'ici 2029. Et ça ne va pas dans le sens pour se réaliser. C'est ce que rapporte Radio-Canada. On se base sur des chiffres compilés par la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la SCHL. 28 maisons unifamiliales qui ont été construites à Québec depuis janvier. Bon, ça nous donne un rythme, là, et ça nous mène à 600 unités mises en chantier d'ici la fin de l'année. Mais en campagne électorale, on promettait la construction de 5000 maisons sur 4 ans, dont 1000 dès 2026. On est à 400 de différence sur ce qu'on avait promis, du moins pour la première année. Et le maire dit que c'est un peu plus difficile à réaliser au début, donc on travaille encore là-dessus. Notre objectif est toujours le même. C'est un défi qui va être de taille, par exemple, quand on considère les circonstances actuelles là, qui rendent les immeubles à logement beaucoup plus intéressants que les maisons pour les promoteurs. Le maire de Québec a aussi répondu au dossier de Radio-Canada qui porte sur la répression policière entre les personnes en situation d'itinérance. Ses réponses en rafale mentale, quand ça fait 3, 4, 5, 6, 7 fois que tu essaies d'appliquer quelque chose, donc de ne pas avoir de campement, là, tu prends les moyens nécessaires. Dans ce cas-ci, il parle de les démanteler, là, puis d'aller chercher directement l'aide pour les démanteler. Et c'est pas parce qu'on est une personne itinérante qu'on a le droit de tout faire. C'était ses paroles. Immense accord, et on en reparlera, entre le gouvernement Fréchette et Hydro-Québec, parce qu'on est en train de s'entendre sur cet accord qui se chiffre en milliards de dollars avec la communauté Inuit Pessamit. C'est la presse qui rapporte que ça vient régler des litiges historiques en plus d'ouvrir la voie à de nouveaux projets, dont une nouvelle centrale hydroélectrique sur la Côte-Nord. On en reparle dans un instant, mais c'est vraiment quelque chose qui donne le ton sur l'air Fréchette si jamais vous voulez voter pour la CAQ à nouveau aux prochaines élections. Et je termine sur cette histoire. Puis c'est ça qu'on s'en va approfondir avec notre prochaine invitée. C'est une enquête du Soleil. On parle d'un entraîneur de basketball qui a été banni de son sport après avoir été visé par des allégations de gestes à caractère sexuel sur des élèves et qui a ensuite hébergé un enfant comme famille d'accueil à la DPJ.
Exactement. On fait immédiatement le saut avec Jean Carrier, journaliste pour le journal Le Soleil, qui a sorti cette nouvelle aujourd'hui. Jean, comment vas-tu?
Moi, ça va toujours très bien.
Cool. Ouais, je sais, t'es un good guy. C'est un good vibes only. Jean, c'est d'habitude, c'est Mylène Moisan du Soleil qu'on a reçu la semaine dernière, qui fait un excellent suivi sur la DPJ. Elle nous a notamment mentionné la semaine dernière ses écarts dans des jugements, ce qui est présenté à la cour par rapport à ce qui est la réalité dans des rapports. Mais là, toi, t'es tombé sur cette histoire-là. Ce que j'en comprends avec le papier que j'ai lu, c'est que à la base, c'est un entraîneur de basketball qui a les mains longues.
Oui, si on peut le mettre comme ça. C'est un entraîneur qui a passé dans différentes écoles. Il y a une école, par contre, qui l'a congédié pour des gestes là, à caractère sexuel, qui a eu par la suite des plaintes qui ont été émises contre lui. Il va falloir que je retourne parce que le nom de l'organisme n'existe plus, puis c'est un nom qui est quand même très long. C'est au bureau de l'officier des plaintes en matière de protection de l'intégrité dans les sports et loisirs au Québec.
OK.
Mais ça, c'est maintenant, c'est le protecteur de l'intégrité en loisirs et en sport.
D'accord. Fait que
deux plaintes ont été logées au bureau, puis on peut lire dans l'article que, bon, écoute, effectivement, il y avait les mains longues, là, c'était des gestes, écoute, flatter les cuisses, écoute, il y avait... C'est deux événements différents, là. Il y a un événement qui est en 2024, qui est au championnat universitaire à l'Université Laval, où ce qui était avec un enfant qui était sous sa charge, puis les deux témoins ont admis que c'était inacceptable, la proximité qu'il y avait avec cet enfant-là. Mm-hmm. Il y avait justement flatter le dos, des choses que... on ne devrait pas voir, je pense qu'on peut s'entendre.
Du côté d'un entraîneur, là, en effet.
Ouais, exact. L'autre, les deux ont ensuite mentionné du temps où il était à l'école Saint-Jean-de-Bermance. Là, c'est un peu plus précis. Il y en a un qui a admis qu'il l'avait vu mettre la main en dessous d'un short. Prendre des enfants sur lui, c'est des choses que... Évidemment, on ne peut pas se permettre...
Oui, c'est ça. On parle de jeunes du primaire.
Oui, à Saint-Jean-de-Barmance, effectivement, c'est une école primaire donc de la région de Québec, qui a été finalement congédiée là, de cette école-là.
C'est très particulier. Puis tu dis, il y a des gens qui ont été témoins de ça, qui ont fait des plaintes, qui ont allumé des lumières. On est content de ça. Mais ça semble évident ce qui est reproché ou ce qui a été témoigné, que c'est inacceptable. Puis n'importe qui travaille dans le milieu éducationnel ou avec des jeunes, il me semble, est au courant qu'on ne pose pas des gestes comme ça. C'est pour ça que c'est encore plus inquiétant.
Oui, écoute, si tu me dis à quel point le drapeau rouge est gros, il est assez gros. Là,
mais
je devrais pas faire des blagues avec ça. Parce
non,
que
non, non,
que
mais je comprends très bien. Autrement dit, là, l'école n'a pas eu le choix de procéder parce que là, les gestes qui étaient reprochés étaient vraiment à l'encontre.
Oui, puis c'est des membres du personnel qui l'ont dénoncé. À ce moment-là, bon, eux, ils ont pris leur décision. Par la suite, lui, il a coaché ailleurs, dans d'autres écoles. Il a coaché aussi au civil. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'à travers ça, lui, on ne sait pas exactement quand, parce que la DPJ n'a pas confirmé, mais dans ce timeline-là, désolé de l'anglicisme, là, Il a fait application pour recevoir un enfant comme famille d'accueil.
Donc, et là, la DPJ a dit oui. Avant de passer là, normalement, de la façon qu'on gère les choses maintenant dans le sport et avec ce qu'Isabelle Charest met en place, cet entraîneur-là n'entraînerait plus ailleurs parce qu'on va avoir ce fameux registre-là. Je me trompe-tu?
Oui, mais le registre n'est pas public.
Ah, donc ça veut dire qu'un individu comme ça va pouvoir encore passer dans les mailles du système.
Bien, j'espère qu'un article comme le mien peut faire bouger les choses.
Je l'espère.
Quand tu regardes la fin un petit peu de l'article, c'est là que le Pills défend. Un, première des choses, eux, ils ne commandent pas parce qu'ils disent que c'est arrivé à l'organisme précédent le ouais. leur. Fait que là, ça enlève beaucoup de choses. Mais on peut voir qu'ils disent que même si la loi ne prévoit pas de registre public, on peut transmettre l'information, si on le juge pertinent, aux autres organismes susceptibles d'être concernés.
OK. Donc, on pourrait retransmettre, exemple, l'information au RSEQ.
Oui. Mais faut mentionner que quand il y a eu la plainte au Bureau de l'intégrité, eux, ils ont pris une décision. L'entraîneur ne pouvait plus coacher. Mm-hmm. Ça, c'est arrivé en 2024, si ma mémoire est bonne. Puis à ce moment-là, le bureau, la décision qui a été prise, c'est que l'entraîneur en question ne pouvait plus entraîner ni au RSEQ, ni à la Fédération de basketball du Québec. Okay. Donc, il était comme barré du basketball.
Mais il a réussi à se faufiler quand même.
C'est comme je dis, là, la DPJ, on n'a pas confirmé quand est-ce qu'il a entrepris ces mm-hmm. démarches. On peut pas savoir où exactement, mais je pense qu'on peut assumer qu'il s'est faufilé.
Ouais, quand tu parles à la DPJ, il garde le silence, j'imagine, il te donne pas beaucoup d'informations.
Toutes les organismes à qui j'ai parlé
sont
très, très silencieuses. Puis là, c'est normal qu'on pointe du doigt la DPJ. C'est tout à fait normal. Par contre, elle n'est pas seule. Puis là, je vais commencer avec ce que la DPJ nous a donné. Bien, première des choses, ils ont admis que c'était inacceptable, là, que c'était okay. sans précédent. Ça fait peur parce que c'est un peu le filet de sécurité. C'est tout le processus. Qu'on peut questionner comment cette personne-là a réussi à avoir un enfant chez lui.
Ben, puis, moi, je m'attends à ce que la DPJ...
La DPJ a confirmé qu'il y avait eu un placement de 3 semaines là, chez okay. l'institution en question.
On ne sait pas si ce placement-là, l'enfant a été victime. On n'a pas de nouvelles là-dessus.
Ça va au-delà de ce qu'on peut prouver ou de ce qu'on peut, tout simplement circuler comme information. On peut juste
mettre en
souhaiter
lumière.
Qu'il n'y a rien de ouais. grave qui est arrivé pendant ces 21 jours-là, mais c'est long, 21 jours.
Mais le but, c'est de mettre en lumière, en fait, ce trou-là arrivé dans le système, qui est épouvantable si jamais il est arrivé quelque chose.
C'est un glitch dans la matrice, ouais. là, désolé.
Non, mais t'as entièrement raison, puis un glitch qui ne devrait pas exister.
Bien, c'est qu'on s'attend à ce qu'un organisme comme la DPJ soit infaillible sur ces choses-là. Puis là, on se rend compte qu'elle ne l'a pas été. L'autre point que je veux mentionner, qui est très, très important pour moi dans ce dossier-là, c'est que la DPJ, bon, ils ont comme tout un processus pour... ils ne donnent pas des enfants à n'importe qui non plus. Ça prend, je pense, faut que tu passes devant un comité, tu as des entrevues, c'est une dizaine d'heures dans
l'entrevue. Exactement. Viennent visiter chez vous,
prendre des mesures de la chambre, on en a déjà parlé.
Mais la recherche des antécédents est confiée au SPVQ. Alors, qu'est-ce que le SPVQ n'a pas vu dans cette chose-là? Puis eux, ils n'ont rien donné comme information.
Hey, ça, c'est questionnant parce que, tu sais, je vais donner l'exemple. Moi, je coach au hockey, puis je remplis mon formulaire d'antécédent, oui. OK? Puis moi, chaque année, il faut que j'aille prendre mon empreinte digitale parce qu'il y a quelqu'un, soit de mon nom, de ma date de naissance, qui a fait un crime grave. Donc, j'ai pas le choix d'aller prouver je ne suis pas cette celui-là. Personne-là. Ouais. Puis encore cette année, quand je parlais à l'enquêteur, il s'est même ouvert un peu plus en disant « Écoute, c'est un crime sexuel. Fait que je comprends que je m'en vais donner mon empreinte. Ça me dérange pas que ça me prenne une demi-heure puis c'est fait puis c'est bien correct. » Mais je me dis, est-ce qu'il aurait fallu que les parents ou l'externat Saint-Jean-de-Barchemin fassent une plainte à la police pour qu'il soit filtré? Mais encore là, la police devrait avoir accès.
Je pense pas que c'est le rôle de l'école de faire ça.
C'est ça.
T'sais, moi, ce que je peux mentionner, c'est que il y a deux choses dans la recherche des antécédents. Il y a l'aspect criminel.
Oui.
Puis ça, ça a été vérifié. Lui, il n'y a pas de dossier criminel parce qu'il n'y a jamais eu d'accusation criminelle qui a été portée contre lui. OK? Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il est blanc comme neige. Par contre, il y a aussi la vérification des empêchements. Les empêchements, mais c'est un comportement qui peut raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou morale des enfants.
Puis là, c'est clair qu'il y avait un empêchement, lui, de par le fameux bureau qui n'existe plus et le RSEQ.
Puis, selon moi, il y en avait plus qu'un. Quand tu lis les plaintes qui ont été déposées, c'est pas arrivé à une seule reprise non plus. C'est arrivé à plusieurs reprises. Donc, je pense que... Ça, c'est mon opinion comme citoyen.
Vas-y.
Qui n'est pas comme journaliste. Cette personne-là n'aurait jamais dû accueillir un enfant chez lui. Là.
Jamais, jamais, jamais.
Mais je me questionne parce que là, je me dis, bon, si c'est la police qui fournit le constat du passé, là, infractionnel ou pas, d'une personne, c'est-tu la DPJ qui a eu un manquement dans sa façon de faire ou c'est du côté du SPVQ qu'on n'a pas été capable d'aller faire la totalité de ce qu'on avait à faire? Pourquoi c'était pas noté? C'est parce qu'à un moment donné, si la DPJ reçoit le travail du SPVQ, puis c'est comme s'il s'était rien passé puis qu'il n'y avait jamais eu de plainte à propos
ben,
de l'homme.
Si tu te fais dire tout est beau, on peut juste assumer que c'est ça qui est arrivé.
Alors, c'est pas complètement c'est la DPJ? C'est-tu un manque de temps du côté des plaintes?
Moi, je pense que les deux là-dedans, l'organisme, sont à...
Ben, oui, parce que je pense que normalement, dans le processus rigoureux de la DPJ, ils devraient être en mesure d'être capables, dans leurs questions, dans leur évaluation, être capables de... quand même faire le tri entre quelqu'un qui a un fort risque de poser des gestes d'agression, d'attouchement sexuel à un enfant versus le commun des mortels qui le fera jamais.
Non, c'est ça, mais tu sais, mettons que c'est la police qui devait aller poser des questions aux anciens employeurs ou qu'elle allait avoir dans le dossier ou dans le curriculum vitae de l'homme, puis qu'on se rendait compte que on avait été sorti, banni notre milieu professionnel à un moment.
On est beaucoup dans la spéculation parce qu'on dur à dire qu'est-ce que lui aussi il a dit dans son
exactement.
On ne sait pas ce qu'il a mis. On peut assumer qu'il a peut-être juste rien mentionné de son passé comme entraîneur.
Ouais.
Qu'il avait été banni à un moment.
Bah, assurément, parce qu'il le savait, évidemment.
Ouais, ouais, ouais. Mais situation très, très, très embarrassante, encore une fois, pour la DPJ. Et d'ailleurs, plusieurs personnes sortent, dont des anciens enquêteurs de police, et tout ça pour dire qu'il faudrait peut-être porter des accusations criminelles contre la DPJ et contre certains employés pour du laxisme et des manquements qu'il y a à l'heure actuelle. On continue à suivre ça dans le soleil via Mylène Moisan, via Jean Carrier. Jean, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission.
Ça fait plaisir.
Merci d'avoir sorti cette histoire-là. Ça fait en sorte que ça va faire bouger à l'interne, j'ose l'espérer, à la DPJ pour qu'on soit plus vigilant. Au niveau du SPVQ aussi, c'est une méchante tâche au dossier d'avoir échappé quelqu'un qui avait des manquements de la sorte. Après la pause, Pascal, on se fait un petit micro. On va parler de ce vieux Québec-là, piéton. Bruno Marchand, nous allons en consultation. 17 personnes. On va faire un gros groupe. On va parler. Ah ah! Le chat est sorti du sac.
Jusqu'à 14h.
Ouais, conversation très particulière qu'on vient d'avoir avec Jean Carrier du Journal Le Soleil. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101. C'est l'émission On en jase. On est 100% parlé pour l'été. Et justement, on a un texto qui est rentré. On nous promet un processus rigoureux qui nous protège, j'en doute un peu maintenant. En effet, allez lire ça, c'est dans le journal Le Soleil, un entraîneur de basketball aux mains longues qui a réussi à passer à travers le processus d'avoir un enfant en famille d'accueil malgré le fait qu'il avait été banni de la RSEQ et de l'environnement de basketball en 2024. C'est consternant, Pascal. Faut protéger nos enfants, c'est un devoir.
Ben oui, parce qu'il y a des environnements ou des jobs où quand il y a quelque chose qui tombe en deux craques, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Nous, on dit tout le temps, on ne sauve pas des vies. Il faut regarder ce qu'on dit, la manière dont on le dit, puis on ne fait pas de diffamation, mais il y a des endroits et des jobs où il n'y a pas de possibilité que quelque chose tombe entre deux cracks.
En plein ça, et ça, ça n'en est une. Donc, très, 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 très questionnant. J'ose espérer que l'excellent travail que le Soleil fait sur la DPJ via Mylène Moisan, là, c'était avec Jean Carrier, normalement titre au sport, va avoir justement, va résonner au niveau du gouvernement. On a nommé une nouvelle directrice, Leslie Hill. Elle est en poste depuis à peu près 18 mois, je dirais. Elle est venue deux fois en entrevue ici. J'avais confiance en elle, mais là, il y a vraiment de la gangrène dans le système. Il faut s'attaquer à ça. Est-ce que ça va être par le moyen du criminel, comme plusieurs le disent? On fait juste penser à ce que Mylène Moisan a rapporté aujourd'hui. On a falsifié un rapport pour faire en sorte qu'un enfant n'ait pas accès à sa propre mère. C'est criminel, falsifier un rapport qui s'en va à la cour. Donc, c'est outrage au tribunal. Est-ce qu'il va falloir se rendre là? Bien, s'il faut, on n'aura pas le choix. Parce que présentement, ça fait pas de sens. Il y a une histoire sans bon sens par jour à la DPJ. Faut que ça arrête. Faut protéger nos enfants davantage. Et je le répète, c'est rien contre le personnel. Je sais que 99,5% du personnel de la DPJ est bon, le fait de la bonne façon. Mais faut enrayer ce système-là là, qui présentement permet trop de laxisme, permet des gestes qui sont dangereux, qui portent atteinte à nos enfants. Pascal, avais-tu cru le maire Marchand quand il nous avait dit « Hey, c'est une consultation. Vieux Québec piéton, là, 17 personnes sur une consultation, on va s'asseoir ensemble. » Moi, je vais te dire bien honnêtement, je ne le croyais pas parce que ces consultations sur le tramway, ça a toujours été « voici ce qu'on va faire ». Puis sa consultation sur le Colisée de Québec, ben, même s'il nous avait dit une consultation, « on consulte, mais moi, je veux le démolir ». Puis même, ils sont arrivés à la conclusion qu'on pourrait garder une espèce d'architecture pour justement l'histoire de la ville. Il a dit « non, on démolit ». Fait que je me dis « bon, même si on fait une consultation ». Il
je
aura
me disais,
dessiné.
Vieux Québec piétonnier, c'est beaucoup moins engageant qu'un projet d'infrastructure.
En fait effet.
Que, oui, consultation, ça peut être intéressant, surtout pour aller parler aux gens sur le terrain. Est-ce que j'y croyais? Je me disais juste, j'espère qu'on n'utilisera pas le mot consultation et que ce ne sera pas vraiment une consultation parce qu'après, ça fait trop de fois qu'on fait cet exercice politique-là sans nécessairement y aller avec les résultats qu'on a sur le terrain. On n'est pas toujours obligé en politique non. d'aller avec les résultats du terrain. On peut se fier justement aux choses qui nous sont dites pour ajuster la politique. Mais quand finalement la politique, c'est juste celle que tu as annoncée au départ, je trouve ça un petit peu plate.
Et là, hier, bien, le chat est sorti du sac en plein conseil de ville à la Ville de Québec, dernier conseil de ville avant les vacances estivales. On écoute le maire Marchand.
Mais il en demeure pas moins que notre décision, elle est ferme et irrévocable.
Ah.
On va travailler avec les citoyens du Vieux-Québec. On va continuer de le faire étape par étape, comme on le fait depuis le début. On n'a jamais caché ce qu'on faisait. Et oui, on va le piétoniser. Mais on ne va pas tout piétoniser à 100 %. Puis non, c'est pas vrai que les gens ne pourront plus rentrer. Mais oui, les citoyens vont pouvoir venir se stationner près de chez eux. Puis oui, on va travailler de la mobilité. Puis c'est ce que Mme Coulombe-Leduc fait avec courage et brio.
Finalement, on va le piétoniser. La consultation sert juste à mettre les paramètres. Et là, il y a Alexandre qui écrit. Peut-être nous autres qui comprend mal le mot consultation. Finalement, peut-être. Hein? Peut-être c'est nous autres qui n'a pas la bonne définition. Caroline Debine, Moses de Maire Marchand. Fait que finalement, c'est une consultation, mais qui sert à mieux encadrer notre décision.
Puis, tu sais, on aurait pu le présenter autrement. On aurait pu juste dire, hey, on va rendre le Vieux-Québec piétonnier. Avez-vous des choses à témoigner, vous qui habitez dans
ça.
Le secteur? On va aller vous consulter, oui. Demander comment est-ce que vous voulez. Mais la décision est prise. Puis je pense que les gens se sentiraient peut-être un petit peu moins floués. Je pense pas que c'est l'exercice du maire là, de flouer des gens là, dans la Ville de Québec. Là. J'ai pas envie de lui attribuer ça. Mais il faut faire attention aux mots utilisés et à la façon de faire de la politique. Ça, ça commence à pendre un petit peu au bout du nez du maire marchand, là, puis la défaveur ouais. à se faire en sens-là aussi.
La définition de consultation est débattre, discuter, enrichir les échanges de vos points de vue.
C'est quand je dis qu'il faut faire attention avec les mots utilisés.
Pas pire, hein? J'ai l'impression qu'on ne débattra pas beaucoup sur la piétonnisation du centre-ville. Est-ce que ça vous tanne de voir que le maire a déjà pris sa décision? 418-971-1021. Autre chose qui m'a tanné du maire hier, c'est dans sa conférence de presse d'avant-conseil de ville. On est revenu sur la sécurité routière à Beauport. On a des problèmes de sécurité routière frappants à Québec. On l'a vu dans les statistiques de la SAC. On était la région qui qui était la pire en dégradation. Ça touchait beaucoup les jeunes et les personnes aînées. On le sait, il y a eu un accident tragique qui a coûté la vie à un jeune qui était à vélo la semaine dernière. Écoute ce qu'il avait à dire à ce sujet-là, puis je t'explique ce qui m'agace après.
Toujours ramener chaque aménagement à la gare à l'auto, là, c'est complètement disgracieux. Puis on l'a vécu dans des endroits, je vous rappelle les saillies de trottoir, là. On l'a vécu dans des endroits où, parce qu'on enlève un stationnement pour élargir le trottoir en bout de rue pour faire en sorte de rapprocher les deux intersections et que le piéton soit moins longtemps dans la rue, des conseillers, des conseillères qui se sont fait tirer des tomates par du monde. « Hey, la guerre à l'auto, vous... » Non, non, non. C'est la guerre aux accidents. C'est la guerre aux pertes de vie. C'est la guerre aux gens frappés. C'est la guerre aux gens blessés. Oui, ça, c'est la guerre. Ça, c'est notre guerre.
On reprend la mort d'un enfant de 11 ans pour en faire de la politique. « Hey, vous savez, moi, là, je veux faire ça, mais on se fait tirer des tomates. » Hey, vous savez, si c'est pas fait, c'est à cause de la guerre à l'auto. À place de dire, hey, à Beauport, il y a un problème, là. Checkez-moi bien aller, moi y aller, là, puis on va le régler le problème.
T'aurais voulu que ça soit nommé autrement.
Ben oui.
En n'utilisant pas cet exemple-là.
Exactement. Parce que là, dans le fond, là, ils visent avec ça respect citoyen. Qui on le sait, respect citoyen, c'est un parti municipal qui prône pour les déplacements en voiture. Puis Stéphane Lachance s'en est pas caché sur dans Marceau le matin ce matin. Vous pouvez réécouter sur blvd.fm. Mais il fait de la politique sur le dos de la mort d'un enfant. Ça, je m'attends à mieux de mon maire.
Il y a des gens qui nous écrivent qu'ils vivent à Beauport puis ça fait 4 ans qu'ils se battent pour faire mettre un stop sur sa rue, mais que c'est complètement boqué, les réponses qu'il reçoit. Puis c'est son terme, là.
Non.
Il dit c'est complètement boqué, là. Donc, j'en ai pas de stop puis je me bats pour ça. Fait que j'ai l'impression qu'il trouve que ça sort un peu de nulle part, là, de dire qu'il faut s'attaquer à la circulation du côté de Beauport et aux endroits accidentogènes, parce que lui, il semble militer pour ça depuis un bout. Peut-être que c'est ça qui l'a motivé.
Peut-être. Mais ouf. Fait que c'est ça. J'ai trouvé cette réponse-là manquait beaucoup d'humanisme envers la famille éprouvée. On fait de la politique sur le dos d'un enfant de 11 ans qui est tué. Puis il y a beaucoup de jeunes qui nous écrivent en passant, ils continuent d'interagir au 418-971-1021, qui écrivent en disant « Ouais, ça me surprend pas, le maire, là, il écoute pas. Il fait ce qu'il veut, il avance comme il veut. »
Par rapport à la consultation, là,
qui
n'était pas une consultation.
En plein ça. Puis, excellent texte aussi, la chroniqueuse Karine Gagnon, justement, aujourd'hui, qui écrit « Ouais, peut-être je vais le transmettre dans mes mots, puis je vais aller voir le titre, là, mais c'est ouais, le maire Marchand, là, il avance dans ses pensées. C'est « Marchand doit éviter le pilote automatique », je trouve ça bon. C'est vrai qu'il est sur le pilote automatique. Bon, il était élu à 49%. Ça va bien. Ah ouais, j'avance mes affaires puis j'écoute pas trop.
Mais ça, c'est particulier parce que c'était pas du tout ce qu'il souhaitait, du moins qu'il a dit souhaiter
ben
pour
non.
son mandat actuel. On avait eu de grandes discussions avec lui aussi. Puis c'était super humain sur le ton, la façon de faire les choses, ce qui était reproché au premier mandat à Bruno Marchand. T'sais, il avait été capable d'être confronté là-dessus, de répondre, de dire qu'il veut faire attention. Puis après son élection, il dit « Je prends pas ça pour acquis. »
Non. Je veux travailler ensemble.
Je l'avais tellement trouvé honnête et rationnel.
Ben, moi aussi.
Je le sais que je n'ai pas été élue à ce niveau-là parce que la Ville de Québec voulait donc que ce soit moi encore. Ça a été des élections particulières où j'avais peu d'adversaires concrets, là, mm-hmm. avec une politique un petit peu disgracieuse qui a été faite. On ne revient pas dans la campagne municipale, vous le savez, c'était très bas là, sur certains enjeux. Fait qu'il avait accepté puis il avait dit « Je suis conscient ». Que c'est pas tout le monde qui m'applaudissait comme ça.
En effet.
C'est beaucoup de gens qui ont aussi voté parce qu'il n'y avait pas l'alternative qui espérait. Mais ça va pas dans le sens de ce
non, les se comportent complètement de façon inverse. Il n'y a pas du tout de collaboration
avec l'espèce citoyenne. On dirait quelqu'un de fâché sur quelque chose. Puis j'arrive pas à mettre le doigt sur pourquoi il est fâché puis pourquoi il ferait de la politique comme ça. À moins que ce soit son comportemental, mm-hmm. là, qui soit défini par ses traits de caractère-là puis que, ben, il va falloir faire avec parce qu'il est de même, il est de même. Mais si tu penses de ce discours-là, d'accepter d'être rationnel, de dire oui, j'ai ces enjeux de communication-là, j'ai un ton, faut que je fasse attention, j'ai pas envie d'être ça pour vous en tant qu'maire. Puis là, même après qu'il soit élu, fait qu'on peut pas dire qu'une fois élu. Mais en ce moment, y a-t-il quelque chose qui l'a fâché au
point? Ben, c'est ça, parce que tu sais, moi.
Ramassez-vous, là.
Ben, peut-être pas fâché, peut-être juste. Il est dans sa chambre d'écho présentement, puis il se dit « Hey, moi, j'ai raison. » Et là, dès que quelqu'un ose dire « Hey, attendez, il y a peut-être quelque chose qui va pas dans ce sens-là », ça vient justement l'irriter. Bon texto de Fred, merci beaucoup, qui apporte une opinion différente. Il dit « À un moment donné, nous avons élu un maire, et ça à forte majorité, pour qu'il prenne des décisions. Oui, je suis d'accord avec une certaine consultation avec le public, mais on doit avancer, on doit justement pouvoir avancer les choses. D'accord avec lui, mais malgré tout, même si tu étais là à forte majorité, je pense qu'il faut toujours que tu consultes ta population, il faut toujours que tu consultes tes équipes, il faut que tu ailles voir les citoyens. Parce que sinon, ben, ce qui pourrait avoir marchand, c'est ce qui vient d'arriver à CAQ. On était majoritaire comme on l'avait jamais été. Puis on est devenu le parti le plus impopulaire.
Est-ce qu'il s'appuie sur le dynamisme de ses conseillers qui ont été élus? Parce qu'il y a une équipe super jeune, qui a le vent dans les voiles, qui mange la politique en ce moment. C'est Eleni Lepage là, qui est sur le terrain.
Ben oui.
Moi, je peux rien dire.
Très actif.
Beaucoup de ses conseillers. Est-ce qu'il s'est assis sur ça en se disant, regarde, mon équipe, là, elle roule? Puis moi, je vais m'occuper des petites affaires parce que dans la chronique de Karine Gagnon aussi, ce qu'elle mettait en lumière, c'est qu'il dit qu'il y a le couteau entre les dents, mais elle a dit, je vois pas beaucoup ses coups d'avance, puis pas la perception qui en dégage, tu l'as bien énuméré, comme quoi on sent pas beaucoup d'appétit là, pour les nouvelles idées, tu l'as bien dit, c'est ça qu'elle écrit. Écoute, je m'en vais dans ma tête. Moi, récemment, je me suis posé la question s'il n'a pas regretté de s'être représenté et d'avoir sollicité un autre mandat avec comment sa vie en ce moment elle est.
Je pense pas. Marceau disait ce matin, je pense qu'il vise plus haut. Je suis d'accord parce que ce qui l'allume, c'est des enjeux plus provinciaux que municipaux.
Y a-tu regretté de se représenter au municipal, sachant qu'il y a une élection provinciale qui nous pend au bout du nez?
Je pense qu'il n'y avait pas le choix de retenter au municipal. Si sa stratégie, c'est le provincial, il n'y avait pas le choix de passer fort au municipal avant pour après ça devenir un incontournable pour un parti politique.
Alors, si tu fais du pouce sur ce que Marceau a évoqué puis que toi, t'avances en ce moment, sortons de l'idée que j'avançais, c'est-tu pour ça qu'il se fait voir un petit peu plus sur la place publique, est-ce qu'il y a une idée un peu plus claire de sa carrière personnelle versus ce qu'il a sollicité aux citoyens de Québec?
Oui, puis ça fait en sorte que ça le détache du citoyen parce qu'il pense plus, puis là, c'est une hypothèse, puis c'est une opinion personnelle.
Puis moins concentré.
Puis ça rejoint Alexandre qui dit, je trouve qu'il manque d'humanisme, justement. Moins concentré sur la base, il est moins concentré sur ce qu'un maire devrait faire. Il est plus concentré sur moi, qu'est-ce que je veux laisser comme legs pour après ça cheminer personnellement.
Mais ça, c'est là où je me dis, as-tu ralenti, puis es-tu assis parce que son projet de tramway a passé, puis là, tout le monde a fait comme il est commencé. Donc, les ardeurs.
C'est clair que ça lui a donné des munitions pour après ça continuer avec sa vision de la chose. Mais tu sais, le vieux Québec piéton, là, sache que Soraya Martinez-Ferrada, Montréal, le vieux Montréal était censé devenir piéton avec Valérie Plante. Elle, quand elle est arrivée, elle est allée rencontrer Commerce, les résidents, puis elle a fait, savez-vous quoi? Il ne sera pas piéton.
Merci quand même, mais c'est drôle parce qu'il...
Voilà une mairesse qui est allée voir son monde.
Pour ne pas le nommer, je suis allée au Bello récemment, puis le Bello, c'est après la porte, là.
Ben
donc, c'est un endroit qui serait piéton.
Exactement.
Si jamais, quand ça sera piéton.
Ben oui. Puis Yannick Parent nous l'a dit sur les ondes. Moi, je peux pas que ça soit piéton, mais les gens viennent en voiture. C'est des gens... C'est une clientèle plus huppée. Les gens viennent en voiture, j'ai un valet parking. Ça peut pas devenir piéton.
Et ça, c'est à la couleur du Bello. Le valet parking, officiellement, là, souvent, tu vas aller dans ce coin-là, tu vas manger au Bello. Parce que tu te casses pas la tête.
Exactement.
Mais de consultations autour de moi, de gens des foodies là, qui vont souvent dans les restos, le secteur du Vieux-Québec, il y en a un autre, un restaurant asiatique, Wong, qui est là, j'aime ça, OK? Mais j'y vais pas. La dernière fois, j'y ai été. On est allé chercher mon père, sa copine, Jeff. J'étais avec mon copain. Attache ta tuque.
Ouais.
52 minutes se rendre.
Ben non, c'est ça.
Le trafic, là, les rues qui étaient barrées, puis tout ça. Puis sais-tu d'où on partait? On partait de Limoilou.
Oh oui.
Quelque chose qui...
Stéphane Lachance nous a raconté la même chose avec des amis touristes en fin de semaine, que sortir de la ville, rentrer en ville pour aller à leur hôtel, ça leur a pris 58 minutes.
Bon, je suis pas la seule qui a
vécu. Non, exactement. Fait que c'est l'enfer.
Honnêtement, je ne suis jamais retournée depuis ce moment-là,
c'est clair.
Ça fait quelques mois.
C'est clair. On va terminer l'émission avec ce référendum qui va avoir lieu dimanche pour un projet majeur d'Hydro-Québec. C'est avec une communauté des Premières Nations. On va en parler avec Lani Dufour. C'est la communauté Innu de Passimite sur la Côte-Nord. Si ça passe, ce projet-là va avoir une incidence très forte sur le plan de développement d'Hydro-Québec. On termine l'émission avec Lani Dufour dans quelques instants.
Jusqu'à 14h. Et savoir, on en jase. 100% parler. Tout l'été.
100% parler tout l'été avec vous. C'est le retour avec Audrey Pinchot, Véro Bergeron et Anthony Gnaccarini qui suit. Oui, on sera de retour demain matin aussi dans Marceau le matin avec Max Laroche, Yannick Marceau et moi-même, Jeff Fortin, Pascal CV pour l'émission On en jase de midi à 14h et de 10h à midi, c'est Max Laroche avec Mathias Turcotte. Météo, 30 degrés, risque d'orage en fin d'après-midi. Demain, 27 degrés, 40% de possibilité d'averse et après ça, on part sur le gros soleil. 25, 27 et 28 pour vendredi, samedi et dimanche. Pascal, avant qu'on passe à Lanie Dufour, chroniqueuse économique pour nous et directrice adjointe aux affaires gouvernementales pour Catapulte Communication, rappelle-nous de la circulation en premier.
Sur Dufresne-Montmorency ouest à la sortie pour le boulevard Charest, la sortie 21, bien c'est barré. Il y a un bris d'aqueduc qui vient de se produire, Jeff, dans les dernières minutes. Alors, ça risque de se remplir, ça ralentit le secteur, on ne peut pas passer, je rappelle. Dufresne-Montmorency ouest, sortie pour le boulevard Charest, la sortie 21, c'est barré. On ne peut juste pas passer.
Excellent. Merci beaucoup. Soyez prudents sur la route. Ouais, gros dossier pour Hydro-Québec qui pourrait se régler en fin de semaine avec une communauté inue de Pessamite sur la côte nord. Résume-nous cette nouvelle-là.
Oui, le gouvernement Fréchette et Hydro-Québec sont sur le point de s'entendre sur un accord. Là, ça chiffre en milliards de dollars avec la communauté Innu de Pessamite, tu l'as dit. Et c'est la presse qui rapportait que ça viendrait régler des litiges historiques. Et ça ouvrirait la voie aussi à de nouveaux projets, dont une centrale hydroélectrique sur la Côte-Nord. On a obtenu une copie du côté de Radio-Canada du document qui est intitulé « Entente de nouvelles relations concernant le développement énergétique » qui détaille les montants qui seraient versés à Pessamite en guise de compensation pour les projets passés qui n'ont pas obtenu leur consentement. Alors, Hydro-Québec, c'est d'énormes sommes, là, pourrait verser des compensations totalisant 992 millions de dollars sur 50 ans. Québec s'engage à verser près de 632 millions de dollars sur 10 ans pour régler ces litiges-là. Écoute, ça traîne depuis les années 1950. C'est énorme comme dossier.
Et pour en parler avec nous, on a Lanie Dufour, directrice adjointe aux affaires gouvernementales pour Catapulte Communication. Lanie, comment vas-tu?
Bonjour, ça va bien, vous?
Ça va super bien. Lanie, à quel point c'est gros et important, ce projet-là, pour Hydro-Québec?
C'est vraiment une grosse entente, ça, c'est sûr. Est-ce que c'est historique? Je ne sais pas si on pourrait parler d'historique, mais assurément, si on s'entend, parce que là, il faut comprendre que c'est pas encore réglé. Là, on a des discussions, puis ce qu'on me disait ce matin même, c'est qu'il y a encore des choses qui changent là, dans les textes. Donc, on est vraiment en négociation. Ça l'a fuité avant parce qu'on sait tous que parfois, c'est des stratégies qu'on a politiques derrière de le faire savoir, mais on travaillerait dans la bonne voie pour s'assurer que, justement, on soit capable de convenir de cette entente-là parce que, justement, vous l'avez dit, il y a historiquement des enjeux parce que on faisait aller les dossiers aux tribunaux là en tout ce qui a trait à justement la communauté Pessamite. On poursuivait le gouvernement parce que on n'avait pas eu depuis la création des barrages la redevance nécessaire selon eux. Donc là, on viendrait vraiment mettre ça sous une entente et on s'assurait que soit il y a une redevance financière ou même qu'ils prennent part à la propriété là, du barrage qui serait créé. Puis, ce qui m'amène à vous dire que au-delà de l'entente avec les Premières Nations, c'est vraiment en termes de puissance qu'il faut voir ça gros, parce que ça équivaut là, en termes de puissance installée, donc la capacité, à deux fois Manic 5.
C'est
très gros quand on parle d'avoir besoin d'énergie au Québec pour des projets, pour la décarbonation, bien, c'est là où est-ce que, justement, on viendrait créer vraiment plus de mégawatts là, sur le réseau.
Lanie, on dit toujours faut avoir une première entente avant que le reste déboule. Il faut avoir ce fameux, là, je vais prendre le terme anglais, là, fameux kicker qui nous permet après ça d'avancer rapidement. Est-ce que si on réussit à s'entendre avec cette communauté Innu, tu crois que ça va donner le ton pour les autres projets d'Hydro-Québec?
Ça peut donner le ton parce qu'en ce moment, il y a quand même aussi des ententes ou des discussions, notamment avec les projets éoliens, avec différentes communautés. Je pense que si celle-là va bien, ben ça peut donner effectivement envie aux autres de s'entendre parce que ben on veut que ce soit un partenariat qui est gagnant-gagnant. On entend souvent cette fameuse ligne-là, mais si c'est le cas, je pense que ça pourra assurément aider. Moi, ce qu'on me dit, c'est que la volonté est là. C'était une priorité, puis c'est pas pour rien qu'on a Yann Lafrenière qui est qui s'occupe justement des affaires autochtones, qui est aussi vice-premier ministre. Parce que justement, c'est une priorité qui est aussi à la sécurité intérieure, là. Mais c'est une priorité qu'on voulait donner de s'entendre avec les Premières Nations, puis de peut-être s'assurer que ça aille mieux dans le futur. Parce que peu importe ce qu'on va faire, si on veut créer justement, là, on parle d'un nouveau barrage, ben, il faut de facto s'entendre avec eux. Oui. Même chose avec l'éolien, même chose avec la majorité maintenant des projets qu'on fait en acceptabilité sociale. On doit inclure les Premières Nations dans les ententes. Fait que si on veut que ça aide, ben, il faut réussir aussi à leur donner, je dirais, qu'est-ce qu'eux ont envie, puis de les faire prendre part à la discussion. Parce que, tu sais, on dit souvent que c'est plus long ou que c'est complexe, mais c'est parce que, justement, ils n'ont pas les mêmes instances que nous. Comme là, on va avoir dimanche un référendum pour, justement, voir si on va de l'avant ou pas. Fait que, tu sais, c'est pas le genre de choses que nous, on fait nécessairement, aller en référendum. Il y en a quelques fois, mais quand même, c'est une façon de faire qui est différente. Puis, ben souvent, quand on fait des ententes comme ça, multipartites, là, parce que ça peut arriver aussi quand tu inclus les municipalités là-dedans, choses qui sont souvent parties prenantes aussi, ben ça rajoute du temps, des délais. Mais une fois qu'on s'entend, par exemple, là, c'est supposé, c'est ce que tout le monde espère, vraiment tenir puis être pérenne dans le temps.
Il y a quelque chose de super intéressant, c'est que ben, je pense qu'il y a des histoires qui ne sont pas les mêmes dans plein de dossiers. Quand je suis allée au Nunavik, Lani, Jeff, il y a cette consultation, ce conseil de bande qui se produisait. Okay, j'ai été chanceuse, j'ai passé une journée là, puis j'ai vu un peu la dynamique, puis tu avais bon, ceux qui parlaient, donc la communauté Inuit qui était là, et il y avait des experts même de l'Université Laval et tout ça, puis eux, le débat, c'était sur une mine, okay, qui allait être implantée au Nunavik, qui était sur un territoire qui était partagé par le gouvernement et la communauté. Puis j'ai pour vrai constaté que tout le monde voulait trouver un terrain d'entente. Puis c'est rare qu'on voyait ça. Autant la communauté se disait encline à avancer, mais il fallait protéger leur caribou, leur territoire de pêche puis de chasse, parce que eux, c'est la seule façon de s'alimenter. Quand il n'y a pas de denrées qui montent dans le nord, ben, ou encore que les prix sont faramineux, si vous pensez que l'épicerie coûte cher ici, imaginez là-bas, ben c'est juste une insécurité alimentaire. Puis de l'autre côté, ils comprenaient qu'il faut se développer. Fait que tout ce qu'a apporté le gouvernement en termes d'incitatifs économiques, puis on va essayer de vous faire travailler aussi à travers la... C'est ça qui était débattu. Moi, je pense qu'il y a eu trop souvent d'histoires où on a mis de l'avant à quel point il n'y avait pas de concessions qui se faisaient de part et d'autre, puis ça a créé énormément d'effets boule de neige. Si cette fois-ci, on est capable d'avoir des consultations qui finissent en bon terme, qu'on est capable de se parler puis de mettre un petit peu à profit la nouvelle façon de faire la politique. Hey, les projets d'infrastructure pour le futur, là, dans le Nord, puis dans les communautés, puis c'est énorme, non, pour notre économie. On parle de retombées de 7 milliards de dollars là, cette fois-ci, par ce que promet le Conseil de bande.
Non, c'est sûr que c'est énorme. Puis quand on regarde, justement, comme tu dis, le fait de... Ce que je comprends, c'est qu'il n'y a personne qui a une mauvaise foi. Puis oui, parfois, on comprend des choses différemment parce qu'on n'a pas les mêmes réalités, mais c'est pas ça. Du tout, encore plus, là, ta situation dans le Grand Nord. Mais si tout le monde met sa contribution puis réussit à mettre de l'eau dans son vin pour vraiment s'entendre pour le bien commun, justement, de faire une entente qui aurait des retombées massif. Puis comme je vous dis, là, en ce moment, des projets au Québec, il y en a des milliards qui sont en attente parce qu'on n'a pas les mégawatts. Puis ça inclut aussi des projets, justement, où est-ce qu'il y a des Premières Nations qui prennent part, que ce soit minier ou que ce soit justement des projets éoliens. Tout ce qui prend 5 mégawatts et plus, de toute façon, tu dois aller justement en autorisation par Hydro-Québec. Puis en ce moment, c'est très long, c'est bloqué. Puis c'est pas tout le monde qui peut réussir à les avoir parce que justement, on en manque. Et ben, Hydro-Québec, si ils veulent réussir leur plan 2035 d'ajouter de 800 000 à 9 000 mégawatts, ben ça va prendre une façon de faire comme ça, tu sais, que ce soit un barrage, que ce soit d'être plus efficace, parce qu'il y a ça aussi, mais tu sais, on parle de plusieurs milliers, là, donc ça se fait pas non plus juste en efficacité énergétique. Là, il faut être capable d'en produire plus. Puis justement, tu sais, tous nos grands plans de décarbonation, que ce soit les véhicules, que ce soit les industries, justement, qui vont avoir une demande en hydroélectricité beaucoup plus grande. Mmh. Ben ça vient avec aussi, tu sais. Puis là, on n'entre pas dans les centres de données qui demandent aussi énormément de mégawatts. Fait que tout ça pour dire que Oui, parfois, c'est plus long, mais si on réussit vraiment à s'entendre, même chose avec Churchill Falls, ben, on va réussir à créer beaucoup plus d'électricité pour le Québec. Puis ça reste que longtemps, ça a fait partie d'un avantage concurrentiel économique. Puis si on perd ça, ben, je me demande si on n'est pas aussi en train de manquer de leadership ou de vision.
Je suis tellement d'accord avec toi, Lani Dufault. Je te souhaite un bon restant de vacances en France.
Merci. Je vais écouter demain mon premier match de soccer avec la France contre le Maroc. Fait que je vais vivre la vraie ambiance de la Coupe du Monde.
Écris-moi, envoie-moi une vidéo de ça pour qu'on puisse en jaser en nombre.
Parfait,
ça me fait plaisir. Excellent. Salut, Lani. Merci beaucoup.
Salut, bonne journée.
Lani Dufour, directrice adjointe aux affaires gouvernementales pour Catapulte Communication. On va suivre ça pour vous dimanche, référendum dans la communauté Inupiaçamite au niveau de la Côte-Nord. Pascal Sévé, je te souhaite un excellent après-midi.
À toi aussi. Merci beaucoup.
Merci à toi. Le retour suit à l'instant même avec Audrey, Véro et Antonine. Ne manquez